Bien, tout le monde est... Oui, voilà, on va commencer. J'espère que vous avez bien déjeuné, que tout va bien. Il n'est pas l'heure de la sieste, pas maintenant. Voilà, Monsieur Spire va se charger de nous réveiller. Et donc, on est parti pour une table ronde. Et c'est Monsieur Antoine Spire qui va animer cette table ronde. Je vous présente encore une petite biographie succincte et toujours frustrante de Monsieur Spire, qui est philosophe, journaliste, responsable d'émissions télévisées sur la chaîne TNT et de l'Île-de-France. Si j'ai des bêtises, vous me rectifiez. Il anime des débats littéraires ou d'actualité, comme Tambour battant, par exemple. Il est aussi responsable éditorial des éditions Au bord de l'eau. Il a écrit aussi un livre que vous connaissez tous ici, La tyrannie du bien vieillir, avec Michel Billet. Il a aussi participé à des entretiens écrits avec Edgar Morin, Pierre Bourdieu, Boris Cyrulnik, Jacques Derrida, Félix Guattari, et sûrement bien d'autres que je ne connais pas tous. Et il est animateur et coordinateur de rencontres culturelles et nationales, auteur de nombreux ouvrages, dont un particulier qui nous intéresse ici, Cancer, la maladie est une personne.
Non, le malade est une personne.
Le malade est une personne, pardon. Chez Odile Jacob, qui a été édité en 2010. Voilà, en quelques mots très succincts, mais...
Il faut peut-être que M. Ben Sadoun se mette là, parce que à votre place. Voilà. Bien, alors bonsoir, bonjour à tous. Je vais d'abord vous présenter ceux qui participent à cette table ronde, pour commencer. À ma droite, Sylvie Finzang, qui est anthropologue, qui a travaillé sur la relation médecin-malade, information et mensonge. C'est une sociologue que moi je connais depuis très longtemps et qui fait un travail assez remarquable sur la santé. Sociologue de la santé, sociologue, anthropologue de la santé. Elle travaille dans un centre de recherche qui s'appelle le CERMES et qui, en matière de sciences humaines, est sans doute ce qui se fait de mieux en France pour réfléchir sur les problèmes de la santé. Le professeur Ben Sadoun, qui est ici, à l'extrême droite, là, qui vient d'arriver, donc, est radiothérapeute en oncologie à Poitiers. Claire Malka, que vous avez vue ce matin, est directrice adjointe, puis directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Poitiers. Nicole Poirier, qui est là tout au bout, nous vient du Québec, et elle est fondatrice de l'Institut de la pratique à l'organisation. C'est l'Institut Carpe Diem, dans l'Institut Carpe Diem au Québec, et elle s'occupe d'Alzheimer. Je dis entre parenthèses que je ne suis pas l'auteur du livre de la tyrannie du bien vieillir, contrairement à ce qui m'a été attribué. Je ne suis que l'éditeur de ce livre. Mais j'ai publié aussi un livre qui s'appelle Alzheimer, le malade est une personne. Hélas, il n'est pas là. Qui était un peu été conçu sur un mode assez proche de celui qui s'appelle Cancer, le malade est une personne, que j'ai fait chez Odile Jacob. Enfin, je voudrais vous présenter Martine Rudziewski, que je connais aussi depuis longtemps et que je suis fier d'avoir à côté de moi, qui est psychiatre, psychanalyste, et qui a travaillé sur, au fond, les problèmes de la maladie grave. Elle a publié un très bon livre, La maladie grave, chez Duno. Elle est psy auprès de soignants de Curie, et elle a 20 ans d'exercice en cancérologie et en soins palliatifs. Elle a été notamment en exercice en soins palliatifs à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, je vous ai présenté tout le monde. Alors, je vais vous dire comment ça va se passer. On va discuter un peu entre nous pendant, disons, une petite heure. Et puis ensuite, vous aurez la parole pendant la deuxième heure. Et on dialoguera ensemble, tous ensemble, pendant la deuxième heure. Mais ça ne va pas être une suite de monologues. Ça va être des débats sur quatre questions que nous allons lancer, les quatre questions. La première, c'est l'annonce de la maladie grave. Voilà. Cette question de l'annonce, c'est une question très importante et je vais y revenir. La deuxième, ce sera les progrès techniques et la relation médecin-malade. Bien sûr, Brigitte Fenzang est une experte. Pardon, Sylvie Fenzang. Excusez-moi, Fenzang. Troisièmement, ce sera la formation du personnel soignant. Et quatrièmement, ce sera la fin de vie. Et on rediscutera au fond de ce qui a fait la conclusion de ce que nous a dit M. Sicard ce matin. Alors sur l'annonce de la maladie grave, je voudrais commencer de la chose suivante. Lorsque moi je suis arrivé pour diriger le service des recherches en sciences humaines de l'Institut national du cancer, il venait de se mettre en place un dispositif dont tout le monde était très fier, et ça s'appelait le dispositif d'annonce. Et c'est assez marrant parce que donc moi j'arrivais et on m'a dit voilà, là vous avez l'exemple des très gros progrès qui sont faits par les médecins en matière de relations et de réflexion sur les sciences humaines. Or, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un dispositif organisationnel. Ça, de ce point de vue, la France est formidable. D'ailleurs, c'est ce qu'on a eu ce matin en fin de matinée. Moi, ça m'a mis terriblement en colère. Heureusement, j'ai mangé depuis. En fin de matinée, on vous a présenté l'agence régionale de santé, le système organisationnel, comme si discuter de la médecine de la personne, c'était discuter d'un système organisationnel. D'ailleurs, on n'a pas discuté, d'ailleurs. On nous a informé de ce qu'était un système organisationnel. Pas de discussion, on nous informe. Eh bien, de la même manière, quand je suis arrivé, on m'a dit, voilà, il y a un système, maintenant très très au point, c'est le dispositif d'annonce. Alors, c'était quoi le dispositif d'annonce ? 1. Le cancérologue annonce le cancer à son malade. 2. L'infirmière la plus responsable, confirme l'annonce au malade. Elle le revoit et lui dit, vous avez bien compris, vous avez un cancer, etc. 3. Ensuite, l'assistante sociale s'intéresse aux problèmes sociaux rencontrés par le malade. 4. L'assistante sociale entre en contact avec le médecin de médecine générale et comme ça, il y a un rapport entre eux. On me dit, vous rendez compte comment on a progressé hein. En 99, il y avait eu les états généraux des malades atteints de cancer à l'initiative d'une très grande association. Et au cours de ces états généraux, quand même, les cancérologues avaient pris conscience qu'il y avait un énorme problème concernant l'annonce de la maladie. C'est qu'en fait, la plupart des gens apprenaient leur maladie dans un couloir, par un coup de téléphone, ou miraculeusement par un mot de leur cancérologue rencontré éventuellement au coin d'une porte, ou même dans une consultation médicale. Et on m'a dit, tout ça, c'est fini, vous savez, on a mis au point le dispositif, donc tout ça, c'est fini. Et comme je dirigeais ce service de recherche en sciences humaines, j'ai eu la possibilité de m'asseoir à côté des cancérologues dans une 60 à 70 services de cancérologie français. Je crois que j'ai fait le tour de toute la cancérologie française. Je me suis assis à côté d'eux en blouse blanche. Et bien sûr, j'étais amené à être assis à côté de celui qui faisait l'annonce. Et j'ai constaté que c'était donc l'étape 1 du dispositif. Et j'ai constaté, en étant assis à côté de celui qui faisait l'étape 1 du dispositif, que la grosse question, c'était comment on fait pour annoncer ? Alors, et que, bien sûr, là-dessus, personne n'avait réfléchi, n'avait suffisamment réfléchi, parce que les médecins avaient réfléchi depuis longtemps, chacun avait son expérience personnelle. Comme m'a dit une cancérologue de Nancy, avec qui je parlais à la fin de la journée, qui avait été très dure pour elle, très dure pour moi, parce qu'il y a eu 6 consultations dans cette journée, et 6 fois, elle a annoncé à 6 personnes différentes qu'ils avaient un cancer. Donc c'est difficile. Et au bout de ces 6 fois, elle était psychiquement épuisée. J'étais psychiquement épuisé. Et je lui dis, c'est très difficile. Elle me dit, vous savez, je fais ça depuis 30 ans. Et moi, j'en souffre terriblement. Ce qui est d'ailleurs très intéressant. C'est-à-dire que la cancérologue, elle s'impliquait vraiment dans ce qu'elle disait. Mais en même temps, elle n'avait pas la formation. Et je discute avec elle pour essayer, au fond, d'approfondir les choses dans la consultation d'annonce. Et j'ai quasiment fini cette introduction sur la consultation d'annonce. Je lui disais, vous savez, les sciences humaines, ça permet quelque chose. Ça ne permet pas d'être gentil ou méchant. Ce n'est pas le problème. Comme M. Sicard l'a dit dans des mots beaucoup plus relevés que les miens ce matin, beaucoup de médecins croient que la médecine de la personne, c'est d'être gentil plutôt que d'être méchant. C'est vrai que c'est mieux d'être gentil plutôt que d'être méchant, c'est mieux. Mais ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'il y a des acquis qui sont donnés par les sciences humaines et qui permettent de penser la situation du patient comme du médecin et en conséquence, une formation, que les médecins en France n'ont absolument pas en la matière et qui leur permettrait de savoir à qui ils s'adressent quand ils parlent à un patient. Alors, comme m'avait dit cette cancérologue de Nancy, vous savez, depuis 30 ans, je sais de quoi il s'agit. Et je lui ai dit, oui, c'est vrai, vous avez de l'expérience. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé sur le concept de biographie ? Et est-ce que vous savez ce qui a été écrit aujourd'hui dans le monde à propos du concept de biographie ? Ah, elle me dit, non, on a écrit beaucoup de choses. Je lui ai dit, oui, il y a beaucoup de livres qui existent sur le concept de biographie. C'est un concept absolument fondamental. Et si on veut faire une annonce à un patient, il faut réfléchir à ce concept de biographie. C'est-à-dire la place du travail, la place de la sexualité, au fond, la place de l'histoire de la personne. Et c'est par là que je voudrais commencer, et je voudrais commencer par demander à Madame Wojniewski si elle peut nous dire, si elle est d'accord pour dire que ce concept est absolument fondamental au moment de l'annonce, et si le malade n'étant pas sidéré par ce qu'on lui annonce, il n'a pas tendance à ne pas entendre la totalité de ce qu'on lui dit. Celui-là a marché.
Oui, ça marche là, oui.
Oui. Pardon.
Pour rebondir, vous parliez de sidération, mais avant cela, je pense qu'effectivement, le médecin à qui on demande une tâche extrêmement difficile et qui est bien plus complexe que le dispositif d'annonce, au fond, ce qu'il a besoin déjà d'avoir en tête, c'est non pas ce qu'il a à dire au malade, mais ce que le malade pourra faire de ce qu'il va lui dire. Et il est vrai, par exemple, que lorsqu'on soigne un malade, le médecin va soigner une personne malade, mais le malade va souffrir dans sa chair. Pour donner un exemple, annoncer à un malade qu'il va subir un traitement chimiothérapique qui risque, par exemple, d'entraîner des paresthésies au niveau des mains alors qu'il est violoniste, eh bien, c'est réellement un déchirement. Et quand on parlait de sidération, on ne peut pas toujours anticiper, on ne peut presque jamais anticiper. Alors, vous parliez aussi des états généraux. Je crois qu'en plus, là, il y a eu un malentendu, parce que quand il y a eu les états généraux, il semblerait que les malades auraient dit qu'on ne les informait pas suffisamment de la maladie dont ils étaient atteints. Et je crois que là, il y a eu un malentendu. Ce n'était pas tant qu'on ne les informait pas suffisamment, c'est qu'on ne les écoutait pas. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 30 ans, effectivement, ni on informait les malades, ni non plus on ne les écoutait vraiment. Parce que comme on ne les informait pas, c'était difficile de les écouter. Mais aujourd'hui, donc après, il y a eu effectivement, on l'a vu ce matin avec la survenue du sida, le mouvement des soins palliatifs, une nouvelle idéologie, on devait tout dire aux malades. Donc on est passé d'une relation où on ne devait rien dire à tout dire. Et ça, je m'en souviens très bien, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années dans le service d'hématocancérologie du professeur Zitoun, on ne disait rien au malade. Le malade ne pouvait pas nommer sa maladie. 15 ans plus tard, avec la survenue du sida, l'influence anglo-saxonne, nouvelle mode, on devait tout dire au malade. Et aujourd'hui, et je vais rebondir tout de suite sur l'effet de sidération, mais je vais redonner la parole, mais je parle par association avec ce que vous avez dit. Je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on en demande de plus en plus aux malades. On doit l'éclairer jusqu'à quel point on n'est pas en train de l'éblouir. À vouloir lui demander le consentement éclairé, signer ses directives anticipées, donner une personne de confiance. Une personne de confiance, rien que ça. C'est compliqué de demander à une personne quelle est sa personne de confiance quand une personne a, par exemple, plusieurs enfants. Est-ce qu'il faut désigner une seule personne ? Donc, en fait, tout ce qu'on donne comme règle, comme recommandation, bien sûr, c'est une avancée. Bien sûr, c'est formidable comme repère. Mais dans le même temps, est-ce que nous réfléchissons aux retombées. Alors, Monsieur Sicard, ce matin, aussi, j'entendais que vous disiez qu'il y avait 75% des traitements chimiothérapiques inefficaces. Et là, j'aurais eu envie, effectivement, qu'on puisse discuter rien que sur cette notion. Qu'est-ce que nous entendons par inefficace ? Pourquoi Est-ce qu'il y a 75% de traitements inefficaces? Je ne pense pas que ce soit que pour des raisons économiques. De la même manière, seulement 2% des Français ont signé leur directive anticipée. Je ne pense pas non plus que ce soit parce que les médecins ne sont pas capables ou ne connaissent pas la loi Leonetti. Voilà. Donc, et la sidération, eh bien parce qu'effectivement, annoncer une maladie grave à un malade, avant tout, c'est ne pas banaliser l'effet de cette annonce et donc éviter la sidération. Mais
Monsieur Bensadoun.
Oui, merci de me donner la parole. D'une première chose, je voudrais quand même, comme vous venez de le dire, montrer que c'est une avancée majeure. Hein, ce dispositif d'annonce a permis d'améliorer très nettement la prise en charge des patients en phase initiale. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut effectivement être critique sur pas mal de choses, ce que vous venez de dire. Et je crois que la principale critique, c'est l'absence de coordination entre les différents intervenants, ce que vous avez bien mis en exergue, qui est donc que chacun vient de façon un peu verticale annoncer sa vérité médicale, infirmière, éventuellement psychologue, etc. Et ce qui manque, c'est effectivement de s'asseoir autour du patient ensemble pour connaître le patient dans sa globalité, avoir une vraie médecine personnalisée dont on parle, et de prendre en charge le patient en fonction effectivement de sa personne. On ne va pas parler de la médecine personnalisée biologique, on en redira un mot lors de notre atelier sur la perception du patient en fonction de ses critères pronostiques et prédictifs de la réponse. Ça, c'est l'efficacité des traitements. Mais là, au niveau de sa personne en tant qu'être humain, effectivement, son métier, son histoire doivent être connus de tous les intervenants. Et je crois que le dispositif d'annonce a été une avancée majeure, mais la demande des patients aux états généraux, c'était bien celle d'une information mal taillée. Et je crois qu'on n'a pas répondu à ça parce qu'on reste sur une information mal taillée qui reste généralisée un petit peu en fonction de la maladie. Et encore, tous les intervenants ne connaissent pas exactement le stade de la maladie et les traitements possibles. Et ce qui manque de façon cruciale, je pense, c'est vraiment cette coordination autour du patient, avoir une sorte de colloque singulier avec l'ensemble des intervenants du dispositif d'annonce pour annoncer de façon éclairée les choses au patient en fonction de sa personne.
Monsieur Bensadoun, on n'est pas d'accord, il vaut mieux le dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je vous le dis, je ne pense pas que le problème soit un problème de coordination. Il y a un problème de médecin qui, effectivement, peut s'intéresser à l'ensemble de la personne. Mais la question, c'est qu'en France, et on en a eu un excellent exemple ce matin ici même, nous devons théoriquement parler de la médecine de la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu pendant 25 minutes quelqu'un nous expliquer comment fonctionnait organisationnellement l'Agence de la santé. Ça, c'est typiquement français. Non, typiquement français. C'est-à-dire qu'on vous parle de l'organisation, on vous parle d'organisation, au lieu de vous parler du contenu. C'est vrai. Pour l'annonce, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui s'échange comme parole à propos de l'annonce? Qu'est-ce qui s'échange comme parole, mais comme signe du corps? Et pour y avoir assisté un certain nombre de fois, je vais vous donner un exemple. C'est un cancer qui normalement est traité par les gastro-entérologues, parce qu'ils sont des spécialistes, mais que le cancérologue généraliste, en général, peut éventuellement diagnostiquer. Alors, il m'est arrivé bien souvent de parler à une assemblée, au moins aussi importante en nombre que celle de ceux d'aujourd'hui, de gastro-entérologues. Et alors, je leur dis la chose suivante, est-ce que vous savez que la plupart des gastro-entérologues n'expliquent pas bien ce qui va se passer lorsqu'on va faire une coloscopie à un malade ? Puisque la coloscopie, ça va être l'examen décisif pour savoir ce qu'il en est du cancer. Et donc, ils ont tous peur de la coloscopie, ce qui fait qu'entre le test, le dépistage et la coloscopie, il y a une déperdition considérable. Il y a un dépistage et puis ensuite, les gens ne veulent pas aller à la coloscopie. Alors, je dis, moi, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. J'ai discuté avec beaucoup de malades, j'ai écouté beaucoup de consultations. Je crois qu'il se passe la chose suivante, c'est que les médecins n'arrivent pas à le dire que c'est une opération compliquée, on va endormir le malade, et qu'au cours de à la fin de cette opération, éventuellement, on va lui enlever des boursouflures, c'est une petite opération chirurgicale, et ça aura des conséquences. C'est-à-dire qu'il aura des gaz, il aura mal au ventre, et ça se dit. Avant, il faut absorber un produit qui est extrêmement mauvais. C'est très désagréable à absorber, ce produit qu'on absorbe avant la coloscopie. Les malades se le disent entre eux. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Premier gastro-entérologue se lève dans l'assemblée, il me dit « Mais monsieur, vous ne croyez pas qu'on leur dise pas? On leur dit !» Alors, deuxième gastro-entérologue. Mais oui, monsieur, on leur dit, qu'est-ce que vous croyez ? On leur explique tout. Et je leur ai dit, mais je suis certainement certain que vous êtes de très, très bons médecins et que vous expliquez tout. Mais moi, comme j'ai pu, d'une part, voir les médecins officiers et d'autre part, interroger les patients à la sortie de la consultation, j'ai pu constater que les patients n'avaient pas entendu ce qui leur avait été dit. Alors, est-ce qu'ils sont sourds ? C'est ça la question.
Je crois qu'on dit quand même à peu près la même chose. C'est-à-dire que si chacun n'est pas dans son coin pour raconter son histoire et qu'il y a une coordination, ce que met les autorités, c'est un cadre. Et ce qu'il faut mettre dans le cadre, c'est justement ce que nous devons discuter et faire ensemble. Et je crois que s'il y avait effectivement une annonce globale préparée, on pourrait mieux expliquer aux patients avec peut-être un enseignement aussi des intervenants pour qu'ils puissent intervenir de façon plus éclairée.
Nicole Poirier, vous pouvez expliquer comment les choses se passent au Québec ?
Bien, moi, je peux surtout parler de bonjour tout le monde. Je peux surtout parler de mon expérience auprès des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. J'ai accompagné de nombreuses personnes qui venaient d'apprendre le diagnostic ou des familles aussi qui venaient d'apprendre le diagnostic. Et je pense que depuis, moi aussi, presque 30 ans, les choses ont un petit peu évolué. Il y a 30 ans, on ne disait pas à la personne qu'elle avait une maladie comme la maladie d'Alzheimer. En généralement, on le disait à tout le monde autour, sauf à elle. Et il y avait un silence aussi au niveau des proches qui faisait que plus tard, on se disait, est-ce qu'on aurait dû en parler? Est-ce qu'elle avait conscience du diagnostic ou est-ce qu'elle en souffrait? Et ça, j'ai accompagné des familles qui se sont posées cette question-là et qui ont regretté de ne pas avoir ouvert avec la personne au moment où le diagnostic a été connu. Aujourd'hui, je pense qu'on en parle plus, on informe plus la personne. Au Québec, il y a un groupe de personnes atteintes dans la phase précoce qui a écrit une lettre au ministre de la Santé pour réclamer de cesser d'utiliser le terme « démence » et que lors du diagnostic, c'était reçu avec violence et que ce terme influençait la perception que les autres ont de la personne qui est malade et ça influence aussi beaucoup de choses au niveau du regard qui est posé sur eux. Le terme, j'ai déjà entendu le professeur Gilles justement expliquer au niveau de l'histoire que Alzheimer, lorsqu'il a identifié la maladie, a emprunté le terme de démence à la psychiatrie du 19e siècle. Est-ce que j'ai bien retenu ce que vous avez dit? Donc, moi, ça m'avait marqué aussi. Je me suis dit, à l'époque, il y avait peut-être des bonnes raisons de nommer la pathologie démence, mais aujourd'hui, ma propre mère a reçu le diagnostic il y a quelques années et le médecin a voulu être gentil. Il lui a dit qu'elle avait une petite démence. Comme si ça allait faire une grosse différence. Donc, il y a cette question-là, des termes qui sont utilisés. Et il y a aussi la réponse à la question « qu'est-ce qui va m'arriver? » Qu'est-ce qui va m'arriver plus tard? Et je reprends les paroles de Blandine Prévost, qui est une Française de la région de Grenoble, qui a 40 ans et qui a reçu le diagnostic d'une maladie apparentée à Alzheimer. Et elle me disait « tu sais, là, tout le monde s'imagine qu'on ne s'en rend pas compte, qu'on a des difficultés. » Mais on le sait, c'est progressif. Et quand on a des difficultés et que le diagnostic tombe, normalement, elle parlait pour elle, il y a peut-être d'autres types de pathologies où il y a une conscience qui est moins importante que la sienne. Mais elle dit, on le sait qu'il se passe quelque chose. Et tout le monde autour fait silence. Et puis moi, j'ai envie de dire, oui, il y a le médecin, mais il y a aussi tout le monde autour qui n'ose pas. Quand tu as le cancer, on dit, comment ça va ton traitement? As-tu de la douleur? As-tu si des pressions, tout ça? Mais quand tu as la maladie d'Alzheimer, c'est rare que tu dis, comment ça va ta perte de mémoire? Comment tu te sens quand tu oublies? Et puis et là-dessus, je trouve qu'il y a les médecins, mais il y a aussi tout le monde autour qui doivent être, on va parler de l'information tout à l'heure. Il y a une chose que je dirais aussi, puis c'est vraiment juste de mon expérience que je parle, c'est qu'il y a des gens qui vont réagir en disant « Non, j'ai pas l'Alzheimer. » J'en ai connu aussi qui m'ont dit « Non, le médecin s'est trompé. L'équipe médicale a échangé mon dossier et je fais pas d'Alzheimer. » Puis il y a une dame qui m'est arrivée un jour puis qui me dit « Est-ce que j'ai l'air d'une Alzheimer, moi? » Et puis là, ils sont étonnants parfois. Là, j'ai dit, ça a l'air de quoi, une Alzheimer? Et là, elle me dit, les Alzheimer, ils les attachent. Puis moi, ils ne m'attacheront pas. Et puis là, je me suis dit, elle est en train Et c'est une femme qui a toujours été libre, qui a peur des conditions dans lesquelles elle risque de se retrouver. Et puis qu'admettre qu'elle fait de l'Alzheimer, ça peut être aussi admettre qu'un jour, peut-être, on va m'attacher chimiquement ou on va m'attacher avec une contention. Et il n'est pas question que j'admette que je fais de l'Alzheimer. Le regard des autres va changer. Tout risque d'être interprété à travers la maladie. Si j'oublie d'acheter le pain, on va me dire c'est la maladie. Mais nous, qui n'a pas oublié d'acheter le pain? Donc, je dirais que c'est un accompagnement qui varie en fonction de chaque personne. Il y a bien des gens, j'imagine, qui souffrent de cancer et qui, la veille de leur décès, disent encore qu'ils vont guérir. Et bien, pourquoi on n'a pas le droit, quand on souffre d'Alzheimer, de dire non, j'en fais pas? Le déni, c'est une façon peut-être de rester, puis vous êtes plus capable que moi de le dire, mais de rester debout. Puis mon rôle, ça n'a pas été de lui faire rentrer de force qu'elle faisait de l'Alzheimer, mais de l'accompagner dans ce désir de dire non, j'en fais pas et je vais continuer à vivre comme tout le monde. Donc, chaque personne mérite d'être accompagnée en fonction de sa personnalité, son histoire, son choix. Alors, je dirais, au Québec, c'est un peu comme en France pour le reste.
Sylvie Fanzang.
Alors, pour répondre à cette question du déni, je dois préciser d'abord que d'où je parle. En tant qu'anthropologue, j'ai un regard un petit peu différent des choses que les psychologues. C'est-à-dire que, effectivement, médecine de la personne, ça nous intéresse au premier chef. Hein, l'anthropologie s'intéresse à la personne, mais non pas en tant que personnalité avec seulement son histoire propre, son histoire de maladie et sa psychologie particulière, mais aussi comme une personne intégrée dans tout un tissu social, dans un réseau de relations sociales, dans un groupe social, un milieu social, dans un milieu culturel. Et c'est tout ça qu'on prend en compte. Hein. C'est jamais la personne isolée de tout ce qui l'a construit. Alors, sur la question de l'information, effectivement, j'aurais beaucoup de choses à dire puisque je me suis intéressée à cette question et donc pas seulement à l'annonce d'ailleurs. Hein, l'annonce, ça n'est qu'un élément à l'intérieur de tout un processus d'information. Mais sur cette question du déni que vous posiez, je dois dire que moi, j'étais très frappée d'une chose, c'est que bien évidemment, il y a eu très bonnes analyses des psychologues pour montrer qu'il y avait une dimension de déni dans le fait d'apprendre qu'on pouvait être malade et qu'on pouvait avoir une maladie grave. Mais en même temps, on se rend compte, comme j'ai pu le faire, puisque une des méthodes importantes de l'anthropologie, c'est d'observer. Observer ce qui se passe en milieu hospitalier, dans les services, dans les consultations. Et je me suis rendu compte que beaucoup de médecins avaient tendance à dire, quand je dis médecins, pas seulement les médecins d'ailleurs, aussi le personnel infirmier qui répète souvent ce que disent les médecins d'ailleurs, hein, de ce point de vue-là, ce sont les meilleurs ambassadeurs de la parole des médecins, avaient tendance à dire que de toute façon, c'est très compliqué d'informer vraiment un malade parce qu'on a beau lui expliquer, il est dans le déni et il n'entend pas. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on entend partout et ce qui est certainement en partie vrai. Ce que j'ai pu observer cependant dans les consultations, c'est que parfois, le malade pose une question à laquelle il n'a pas de réponse. Et lorsque, deux ou trois semaines après, on entend un médecin dire « Ah, c'est terrible, il y a 15 jours, je lui ai tout expliqué à ce malade, mais il est en état de sidération, il est dans le déni, il ne veut pas entendre », le médecin en question, il avait totalement oublié que moi, j'étais là à cette consultation. Parce que l'anthropologue, il sait se faire oublier. Ça fait partie de nos techniques. Et j'avais bien vu que le malade n'avait pas eu de réponse aux questions qu'il avait posées. Donc ça, c'est un véritable problème aussi.
Alors non seulement, moi, je ne suis pas anthropologue, mais pour avoir été assis à côté de cancérologues, encore une fois, dans un très grand nombre de consultations, je peux témoigner du fait que de ce qui se passe dans le regard du médecin et dans le regard du malade, quand ils sont là, l'un face à l'autre. Et je peux vous dire que ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est presque comme un dialogue de sourds. C'est-à-dire que le médecin dit quelque chose, et puis le patient, il continue sa réflexion. Ça se voit quand on regarde ses yeux ou son regard. Il continue sa réflexion à partir d'une phrase ou d'un mot qui a été absolument décisif dans sa prise de conscience. Il y a un mot qu'il a retenu. Et on voit qu'il pense à partir de ce mot. Mais donc, il n'écoute plus ce qui suit, parce qu'il est en train de penser à quelque chose. Et trop souvent, le médecin, alors là, je vais vous dire, c'est dans 8 ou 9 cas sur 10, le médecin vive la technique. Comme l'a dit M. Sicard ce matin, il ne s'agit pas du tout de considérer que les progrès techniques ne sont pas extraordinaires et un apport excellent dans le traitement de la maladie. Mais 7 ou 8 cancérologues qui sont en train d'annoncer un cancer ont les yeux fixés sur les analyses biologiques qui sont devant eux ou sur l'imagerie médicale de l'organe touché par le cancer. Donc ils ont l'imagerie médicale, ils ont l'analyse biologique et ils ont les yeux dessus. Et ils sont en train de dire, voilà, on va faire ça, oui, alors je vous annonce que vous avez ce cancer. Et vous savez, voilà, dans beaucoup de cas, alors souvent on donne une statistique, dans 75% des cas, on peut véritablement s'en sortir assez vite. Alors évidemment, il y a 25% où on ne s'en sort pas. Alors il y a des médecins qui n'en parlent pas de ces 25%, mais il y en a d'autres qui en parlent, comme si le malade était intéressé par la statistique médicale. Le plus souvent, on dit une statistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si je suis dans les 75 ou dans les 25. Mais ce n'est pas la statistique au point où j'en suis. Et disons que d'une certaine façon, le médecin parle tout seul et le malade, qui n'ose pas la plupart du temps parler trop en face du médecin, comme l'a très bien dit Sylvie Fezang, il pose ses questions. Il pose des questions que quelquefois, et très souvent même, le médecin n'entend pas. Et donc, on a l'impression qu'il y en a deux dialogues, deux expressions qui ne se rencontrent pas ou qui se rencontrent très rarement. Alors, quelquefois, il y a un conjoint, parce que l'annonce a lieu, enfin, je ne sais pas si vous avez assisté à ça, moi, j'ai assisté très, très souvent à des consultations où il y a le conjoint. Et ce qui est très, très intéressant, c'est comment le conjoint, lui, réfléchit éventuellement et les questions qu'il peut éventuellement poser. En général, les questions sont posées au moment où le couple se lève, va vers la porte. Et au moment où ils ouvrent la porte, le conjoint dit, le conjoint ou le malade, mais souvent le conjoint, dit « Docteur, le traitement, ça va être long. Ça va se passer de quelle façon ?» Le médecin vient avant d'expliquer qu'avec le cancer que vous avez, hélas, très souvent, on est obligé de dire qu'il y en a pour un an ou deux. Je suis obligé de vous le dire. J'ai vu ça. Hein. Le type a la main sur la porte, dit « Et ça va être très long, le traitement ?» Très, très souvent, j'ai vu ça. Alors que, bon, on peut s'étonner, d'ailleurs, de ce que le médecin donne des indications comme ça de durée. Mais ça montre que, véritablement, il y a un travail à faire sur le contenu de l'échange entre le médecin et le patient.
Si je peux me permettre juste une toute petite chose sur ce point, sur la place des conjoints, ce que j'ai pu observer, ça n'est pas tant au niveau des questions que les conjoints posent que des réponses qu'ils apportent. Et de ce point de vue, c'est parfois assez problématique, c'est que l'entourage proche du patient, bien évidemment, peut jouer un rôle très positif, ne serait-ce que d'accompagnement, mais parfois va répondre à la place du patient, au point de... presque parasiter la communication entre le médecin et le malade, c'est-à-dire quand le médecin va demander au patient comment il se sent et que le patient va dire « Ah ben je me sens mieux » et que le conjoint va dire « Oh non quand même, hein, t'avais mal ces jours-ci » ou alors il va lui dire « Oh je me sens vraiment fatigué en ce moment » et le conjoint qui va dire « Mais non, tu vas beaucoup mieux » et donc finalement on se rend compte que la parole du conjoint ou du proche, hein, ça peut être aussi un enfant adulte, ça peut poser problème parce que parfois ça va conduire le médecin à tirer des conclusions, et même on se rend compte quand il dicte le compte-rendu de consultation, à partir de ce que le conjoint a dit ou le proche, et non pas à partir de ce que le malade a dit, ce qui parfois ne correspond pas du tout d'ailleurs.
Claire Valka, vous voulez ajouter quelque chose ?
Je voulais quand même souligner que la vision, enfin ce que vous nous dites me paraît peut-être un petit peu excessif ou... je trouve que vous grossissez le trait parce que enfin, tous les médecins et les pratiques que moi j'ai pu constater ne sont pas toujours aussi... vous avez dit 8 médecins sur 10, ça me paraît quand même une vision très extrême, hein, de la pratique médicale. Bon, peut-être c'est votre observation, mais où ça blesse mon côté soignant, hein, mais je pense que il y a quand même des, vous l'avez dit, hein, des pratiques qui évoluent et qu'on est quand même plus sur maintenant une démarche de recherche, de centration sur le patient, sinon on ne serait pas là. Et puis tout le travail.
Ça nous a été dit ce matin, on nous a dit le patient est au centre.
Oui.
Ça, on le répète bien, ça. Le patient est au centre. Et vous savez, ça, c'est une affirmation très intéressante. C'est un refrain.
Oui, mais
c'est un refrain qui ne correspond à aucune réalité.
Oui. Et donc voilà, je pense que ce soit dans les pratiques et aussi, moi je parle du côté, de mon côté de formateur, mais aussi de soignante, hein, je pense que justement l'évolution des formations, elle essaye de partir de ce constat que vous faites, mais qui n'est pas aussi systématique, ça je le pense, et d'être dans une approche réflexive par rapport à ce qui se passe. Hein. On ne peut pas dire, bon, c'est comme ça tout le temps. Je pense que ces personnels soignants, ils ont eu une formation, ils ont vécu des expériences et ils peuvent, enfin, ils sont pas dans un état stable et tout le monde peut progresser. Et je pense que là, actuellement, il y a vraiment un travail de collaboration entre les formations pour réfléchir ensemble. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse se limiter uniquement au moment de l'annonce, de la consultation, mais c'est plutôt sur tout ce qui suit, tous les moments consécutifs, hein, qu'il faut travailler ensemble.
Merci. Non, je voudrais juste rajouter, avant de passer la parole, cette notion effectivement, de ce qu'on va dire, peut-être associé à comment on va le dire. C'est plus un problème, parce qu'effectivement, vous dites qu'on ne nous apprend pas à dire les bonnes choses. Je pense qu'on sait, on dit les choses, mais c'est plus la façon de les dire, la façon d'aborder le patient. On n'a pas besoin, je crois que c'est dit dans beaucoup de bouquins, etc. L'empathie, c'est une chose, c'est bien, mais ce que le patient attend et sa famille, c'est de la compétence, c'est de la sûreté, de la sécurité et une certaine assurance du médecin. Donc il faut aussi aborder avec bonhomie, avec bienveillance, mais aussi avec compétence les mots. Et je crois que plus encore que ce qu'on va dire, c'est comment on va le dire, montrer cette compétence et cette assurance qui nous permet d'avoir la confiance du patient.
Martine Rosiewski.
Oui, je voulais reprendre quand vous parliez de surdité ou que, au fond, on ne pouvait pas vraiment parler de déni ou bien que le médecin s'appuyait un peu trop sur le déni parce que, au fond, il ne parlait pas suffisamment aux malades. Moi, j'aurais quand même envie de dire heureusement que le déni existe et heureusement qu'aujourd'hui, les médecins font extrêmement attention à ne pas tout dire. Parce que, et là je reprenais justement un témoignage, je rangeais mon bureau il y a quelques semaines et je suis tombée sur un témoignage d'une patiente qu'elle m'a livrée en 1998. La pire période au moment où on avait changé d'idéologie, c'est-à-dire de ne rien dire, où on était dans le mensonge total, on racontait n'importe quoi aux malades, on en est arrivé à une situation où pour être un bon médecin, il fallait tout lui dire. Comme, malheureusement, là, on pourrait en arriver à, premièrement, on lui donne le diagnostic, deuxièmement, il va voir l'infirmière, troisième mois, on lui dit qu'il existe le psy, l'assistante sociale, la diététicienne, etc., etc., et le médecin traitant. Alors, je vais vous lire juste le petit témoignage, parce que je l'ai retrouvé et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, c'est une patiente que je voyais pour des entretiens. On ne peut pas parler de psychothérapie, des entretiens où elle venait me livrer ce qu'elle traversait, atteinte d'un cancer. Et elle m'a dit la chose suivante, ça se dit en quelques secondes. « Vous savez, madame, me dit-elle, il y a des réponses qui sont insupportables à entendre, qu'on ne voudrait jamais écouter, qu'on ne supporte pas. J'ai posé une question à un médecin, à qui mon médecin et référent lui avait remis une enveloppe avec le contenu de mon dossier. Et alors, elle lui pose la question suivante. « Pouvez-vous me dire si le docteur C vous écrit bien dans sa lettre que je suis guérie ?» Donc on entend bien ce qu'elle est en train de dire, cette femme. On entend qu'elle désire là, enfin c'est une hypothèse, une réassurance. Elle en était là à ce moment-là. « Survient alors la réponse, me dit-elle, cette femme, en entretien. » Non, c'est impossible. Vous savez bien, madame, que la maison pratique ici l'honnêteté. Eh bien, me répond-elle, il y en a marre de l'honnêteté. J'en ai assez de l'honnêteté. Par moments, et ce sont pas mes paroles, hein, c'est un témoignage, je l'ai écrit, je l'ai repris. Par moments, la vérité, si c'est la vérité, et quelle vérité, celle du malade ou celle du médecin ? N'est pas ou n'est plus supportable. Ce que je désire le plus intensément, le plus fortement à ce moment précis, à cet instant, c'est d'entendre cette phrase ô combien magique. Et oui, vous êtes guéri. où vous pouvez vous considérer comme guéri. Peut-être pour l'instant, mais cet instant est tellement précieux. Il correspond à un combat si fort, si intense que pour une fois j'aurais aimé l'entendre. Tant pis si plus tard cela ne se révèle plus juste, mais au moins j'aurais vécu là un moment béni. Donc là, c'est le témoignage. Alors, c'est un témoignage. Il n'a que vraiment, j'en dis pas plus que ça. Juste, je voudrais dire que ça, c'était en 98. Eh bien, moi, en fait, j'ai travaillé, on parle des formations. Au début, il y a une trentaine d'années, je travaillais avec les médecins en leur disant quand même on pourrait peut-être un peu entendre ce que disent les malades quand on voit dans leurs yeux qu'ils sont remplis d'angoisse et qu'ils ont au moins envie de partager leurs angoisses. Essayons d'éviter d'être en permanence dans une réassurance et on voit bien dans leurs yeux qu'ils ne peuvent pas partager leur angoisse, ça ne va pas. 15 ans plus tard, nouvelle mode, il fallait tout dire aux malades. Et moi, je me suis vue ensuite, 20 ans plus tard, à faire une formation dans le sens inverse. Arrêtez d'assassiner psychiquement les malades. Ne vous étonnez pas ensuite, si vous leur assénez une vérité, qu'ils ne sont pas encore en mesure d'intégrer psychiquement, de les tuer psychiquement. Et donc, à ce moment-là, ne vous étonnez pas qu'ils puissent être dans une demande d'euthanasie active. Ça veut dire que si psychiquement vous me tuez, alors ne me demandez pas maintenant de vivre en regardant tous les matins aveuglément la mort comme seul et unique projet d'avenir. Donc en fait, moi, ce séminaire et cette observation dont on parle, je la trouve fort intéressante parce que nous ne sommes pas dans une idéologie, nous sommes dans comment faire pour supporter l'insupportable, comment faire pour qu'un être humain à qui on demande beaucoup de choses aujourd'hui, avec tous les consentements éclairés, les recommandations, etc., on en demande aussi beaucoup au médecin. Le médecin, au lieu de lui apprendre un peu qu'effectivement une relation, même si l'empathie, effectivement, c'est peanuts par rapport à ce que peut vivre dans sa chair une personne malade, c'est quand même mieux que d'instruire le médecin sur un plan juridique. Parce qu'aujourd'hui, le médecin, quand il travaille auprès et qu'il écoute un malade, il se demande s'il est bien dans les clous des recommandations, du dispositif d'annonce, du consentement éclairé, s'il a bien fait signer tous les papiers. La pauvre infirmière, avant de pouvoir écouter son malade, elle se demande si elle a fait tous les papiers. Voilà.
Alors, je voudrais qu'on généralise sur les divers moments de la relation entre le médecin et le malade. Dans votre livre, Sylvie Faizan, je trouve que vous expliquez très bien ce que vous appelez le décalage cognitif entre le médecin et le malade. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une demande qui ne correspond pas à ce que le médecin a à dire, d'abord aussi parce qu'il y a un décalage verbal et qu'il y a un décalage cognitif. Et puis vous ajoutez et vous faites un rapport entre ce décalage cognitif et la question du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pouvoir qui existe. Alors je sais bien que ce n'est plus du tout à la mode de parler du pouvoir médical, parce qu'il y a eu très gros progrès avec la critique du pouvoir médical. Mais dans votre livre, vous montrez comment cette question du pouvoir s'insinue subrepticement dans la relation entre patient et malade, entre patient et médecin.
Oui, alors je voulais quand même juste rebondir sur quelque chose qui venait d'être dit, et ça, parce que ça me semble vraiment être une discussion importante. Pour préciser une chose, c'est que dans la démarche que j'ai eue, qui est celle de l'anthropologie, la question n'est pas de défendre une position, faut-il tout dire ou ne rien dire. La question est, bien évidemment, j'ai mon point de vue en tant que citoyenne, en tant que patiente potentielle, comme vous tous, mais pas en tant qu'anthropologue. En tant qu'anthropologue, mon rôle, c'est beaucoup plus de décrypter les mécanismes sociaux qui sous-tendent cette information, comment elle se fait, comment elle ne se fait pas. Or, ce qui me frappe beaucoup, et ça c'est vraiment un point qui me paraît important à souligner, c'est que beaucoup de choses sont expliquées par les médecins, par la majorité des médecins, en termes psychologiques, alors qu'elles devraient être expliquées en termes sociologiques. Je m'explique. Il est fréquemment dit que lorsqu'une information n'est pas faite ou qu'une vérité n'est pas dite complètement à un patient, c'est parce que le médecin estime que le patient n'est pas tout à fait apte à recevoir cette information, à la supporter. Et il n'est pas apte non plus parfois à la comprendre. Or, ce que j'ai pu observer, c'est que ce jugement que beaucoup de médecins avaient sur cette capacité du patient, hein, parce que la question, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'il va être capable de déterminer cette capacité? Comment est-ce qu'il peut l'objectiver? Or, ce jugement se fonde parfois sur une impression extérieure que le patient donne. Et en fait, très souvent, c'est en fonction de son milieu social d'appartenance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une certaine prestance sociale, qui a une certaine manière de s'habiller, de parler, de ses positions corporelles, en fait, tout ce que vous voulez, tout ce qui fait, hein, ce que Bourdieu a appelé la distinction, c'est quelque chose qui va donner au médecin l'idée que le patient a un capital culturel X ou Y et qu'à lui, c'est bon, on peut y aller. De sorte qu'on se rend compte que ce sont les gens qui appartiennent à les milieux les plus populaires, les plus défavorisés, à qui on cache le plus de choses et à qui on donne le moins d'informations, alors que ceux qui sont de milieux plus favorisés reçoivent beaucoup plus d'informations, indépendamment des questions qu'ils formulent et des questions qu'ils posent à leur médecin. Et alors ceux qui se prennent même le plus en pleine figure cette information, et parfois de façon assez brutale, ce sont les médecins eux-mêmes, hein, les médecins malades. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de montrer que les choses, même si beaucoup de médecins pensent qu'ils fondent leur pratique en fonction des dispositions psychologiques de leurs patients, c'est très souvent en fonction de réalités sociologiques, de mécanismes sociologiques que ça se fait.
Heureusement, les médecins aussi finissent par oublier la médecine et sont dans un déni de ce qu'il aurait énoncé. Et ça, on le voit aussi, hein, des médecins à qui, effectivement, on aurait dit toute la vérité et qui n'ont pas entendu et qui ne sont incapables de redire ce qui leur est arrivé parce que le déni est un mécanisme psychique qui n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles et cognitives.
Nicole Poirier.
Bien, en fait, j'ai envie de dire, vous avez parlé du pouvoir médical suite à l'annonce aussi du diagnostic. Pour les personnes que j'accompagne, le pouvoir médical, il est assez réduit lorsque le diagnostic est posé. Hein. La personne ne demande pas c'est quoi le traitement, combien de temps ça va durer. Et bien souvent, moi, je pense que tout est dans la personnalité aussi du médecin qui accompagne la personne lors du processus diagnostic. L'outil est important, mais la personne qui utilise l'outil l'est davantage, et toute la relation de confiance qui se crée dans le processus de diagnostic a un rôle important au moment où le diagnostic est posé. Et bien souvent, les personnes s'en balancent du pouvoir médical parce que la suite des choses, c'est pas au médecin que ça revient. C'est souvent quand les gens disent, au lieu de dire c'est quoi le traitement, ils vont dire qu'est-ce qui m'attend, quelles conditions de vie m'attendent. Et à ce moment-là, après le diagnostic, c'est on passe la main... On passe la main à des associations, on passe la main à des à d'autres qui vont s'occuper des conditions de vie.
Claire Malcar.
Oui, c'est vrai que quand vous m'avez contacté pour cette table ronde, vous aviez noté les formations médicales. Et je vous ai... Oui, non, mais je ne veux pas revenir sur la formation, mais là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on est très centré sur le médecin, et ce matin, c'est vrai qu'il a été dit que la médecine de la personne, c'est le nom de l'association, médecine de la personne, mais en fait, c'est la santé de la personne, et tous les acteurs, on est dans une dimension pluriprofessionnelle. Et c'est vrai que là, l'annonce, c'est le médecin qui le fait, mais de plus en plus, l'annonce, elle est aussi faite par des professionnels. Il n'y a pas que les médecins, il y a aussi l'infirmière, souvent, qui est présente, hein, aux consultations d'annonce. Et après, dans la suite et la reprise, hein, de ce qui a été compris, c'est important. Enfin, je pense que les infirmières sont aussi, peuvent être aussi dans ce déni que vous évoquez, dans cette difficulté psychique, hein, peut-être à moindre degré que le médecin, parce que c'est pas elles qui en ont la responsabilité première. Et ce qui a été dit ce matin aussi, c'est que ce sont de toute façon deux histoires de vie, enfin des histoires de vie qui se rencontrent, et l'histoire de vie du soignant, des soignants, et l'histoire de vie aussi du patient. Donc ce qui est important, je pense, c'est de considérer que les réactions de chacun sont liées à sa propre histoire, à sa propre difficulté. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur ce qui s'est passé et sur les résistances et sur
la façon de réagir de chacun pour pouvoir avancer. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne veux pas revenir à la formation tout de suite. Je sais qu'on va y revenir, mais qu'on n'oublie pas qu'en fait, c'est puisqu'on est là ensemble pour à plusieurs professionnels réfléchir sur sur comment se centrer sur le patient et son histoire de vie.
Monsieur Bettadoun.
Oui, non, c'est évident. Sur ce dernier point, c'est une évidence, hein, effectivement. Je crois que la formation, elle est, vous l'avez abordé au départ, et je pense que c'est un point qui amène à réflexion. C'est effectivement de penser peut-être à des formations ensemble, à se former pour l'annonce aux patients, mais aussi à l'accompagnement en phase curative, en phase palliative. C'est quelque chose qui nous est vraiment à cœur, c'est d'accompagner aussi et même surtout en phase curative, ce qui est souvent oublié. Hein, et je crois qu'on en parlait tout à l'heure avec le docteur Montaz, les soins palliatifs devraient s'adresser aussi aux curatifs. C'est, vous appelez ça, si vous voulez, soins de support ou ce que vous voulez. La question sémantique étant au premier point est souvent en France mis en avant, mais je crois qu'il faut dépasser tout ça. Et je crois que le vrai souci de l'accompagnement ne doit pas être considéré comme un accompagnement négatif jusqu'à une sanction de décès. Bien au contraire, se positionner sur un accompagnement positif tout au long de la maladie jusqu'à la guérison, si elle est là, et c'est souvent le cas, pour avoir un dialogue avec le patient qui soit orienté vers ce qu'il attend et qui ne soit pas trop technique, mais pas trop non plus basé sur un simple accompagnement sans mots importants qu'il attend également.
Mais puisque vous avez évoqué le mot « soins de support », je voudrais dire quand même que le vocabulaire est assez intéressant et assez révélateur. On appelle en cancérologie les soins de support tout ce qui concerne, au fond, la facilitation de la vie du patient. Soins de support concernent éventuellement la perruque, concernent la perruque du malade qui perd ses cheveux, concernent éventuellement la psychologie, concernent éventuellement la kinésithérapie, et tout ce qui est les à côté de la médecine au sens le plus biologique du terme. Moi, je trouve que le vocabulaire est quand même extrêmement riche et nous dit des choses. Le fait qu'on appelle ça soins de support, je trouve que c'est assez inquiétant. Parce que ça signifie, si vous voulez, que la place de ces soins et la place de ces thérapeutes dont vous parlez, qui ne sont pas le médecin, est considéré quand même comme secondaire.
C'est ça, c'est tout à fait.
C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la personne dans sa totalité, dans sa globalité, avec l'ensemble des traitements qu'on lui propose, et de considérer ça comme un ensemble à structurer, on hiérarchise. Si vous voulez avoir des soins de support, c'est le bureau 7, là, juste au bout, là. Et vous aurez tous les renseignements sur le soin de support.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, c'est vraiment un point majeur. Et je crois que le soin de support, il faut que vous... Au départ, le mot était anglo-saxon. C'était supportive care. Le groupe mondial a été créé par des Belges. Mais l'idée, c'était supporter un traitement. C'est tous les soins qui était toute la prise en charge des effets secondaires des traitements. Et vous voyez comme ça, malheureusement, totalement, on a un sens dévoyé actuellement. Et quand on regarde l'AFSOS, l'Association francophone des soins de support, l'ensemble des guidelines, des référentiels, c'est autour de la prise en charge des effets secondaires des traitements. Et malgré cela, on retient comme soins de support tout ce qui est effectivement ce que vous venez de dire et qui est une petite, toute petite partie des soins de support. Là, le vrai sens des soins de support, c'est éviter aux patients d'avoir une mucite importante, des problèmes de neutropénie, des problèmes de nausées, de vomissements, de tout ce qui fait que la qualité de vie, mais surtout que le traitement lui-même, l'optimisation thérapeutique est en défaut. Et c'est sûrement pas de lui taper dans le dos et de lui dire tout va bien. C'est beaucoup plus que ça. Voilà, c'est important.
Alors quand on propose les traitements, il se passe quelque chose, c'est que théoriquement, la loi Kouchner, dont je disais un mot ce matin, suppose qu'il y ait un consentement libre et éclairé du patient. Or, quant au traitement, donc ça suppose que l'équipe médicale lui propose un itinéraire thérapeutique et qu'en face de cet itinéraire thérapeutique, il y a un point de vue du patient. J'ai lu sous la plume de Sylvie Fenzang, dans son livre, que j'ai trouvé vraiment très utile, cette idée qu'il fallait articuler, au fond, le pouvoir de décision et le consentement résigné. J'ai trouvé que cette expression était remarquable, le consentement résigné des patients. Parce que moi, je l'ai souvent vu dans des consultations. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut appeler consentement le fait qu'on dise à la personne, ben, deux choses l'une, si vous voulez vous en sortir, ben, vous suivez cet itinéraire. Sinon... Alors, je comprends très très bien, évidemment, qu'on puisse présenter les choses de cette façon. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon d'organiser un dialogue entre deux personnes libres susceptibles d'intervenir sur le processus thérapeutique.
Oui, en fait, la raison pour laquelle j'ai dit qu'il me semblait que plutôt que de parler de consentement éclairé, on devrait peut-être parler de consentement résigné, c'est parce que dans les faits, on se rend compte que beaucoup de gens ne sont pas véritablement éclairés sur ce qui leur arrive. Et non seulement parce qu'on ne leur dit pas toujours tout ce qu'ils aimeraient savoir, on ne leur répond pas toujours à leurs questions, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de malentendus, alors que je me suis amusée à écrire avec un trait d'union, parce que parfois, effectivement, on n'entend pas leurs préoccupations ou leurs questions, mais aussi parce que parfois, il y a une espèce de véritablement de malentendu sur les mots employés. Et là, je ne parle pas spécialement du jargon médical qu'on peut ou ne peut pas connaître, mais je parle de mots tout simples, comme par exemple le mot « essai », où je me suis rendu compte que beaucoup de patients ne savaient pas si on leur parlait d'un essai, un essai thérapeutique, un essai clinique, ou si simplement on leur parlait du fait qu'on allait essayer un autre traitement, mais un autre médicament qui a une autorisation de mise sur le marché. Donc il ne s'agit pas d'un essai clinique. Et donc toute une série de choses où, par exemple, parfois le médecin croyant bien faire donne des informations qui sont beaucoup trop lacunaires. Par exemple, un médecin qui dit à un patient, « Bon, écoutez, étant donné votre âge, je vous propose qu'on fasse ceci ou cela. » Alors ça, déjà, ça plonge le patient dans la plus grande perplexité. Étant donné votre âge, est-ce que ça veut dire est-ce que vous êtes jeune ou vous êtes vieux ? En imaginant qu'il ait pu répondre à cette question, il se dit « Bon, ça doit être parce que je suis plus très jeune. Est-ce que ça veut dire que c'est un facteur aggravant ou au contraire un facteur facilitant ?» Donc vous voyez toutes sortes de choses, toutes sortes de questions que le patient va commencer à se poser parce qu'on lui en a dit un peu, mais pas assez, ou trop, ou pas assez. Et donc tous ces exemples montrent que finalement le malade est peu éclairé et n'a pas véritablement les moyens d'exercer ce pouvoir de décision qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il me semble que finalement souvent il est plus résigné qu'éclairé.
Alors puisqu'on parle de la médecine de la personne, moi je fais allusion dans le livre que j'ai écrit à deux références théoriques qui sont un peu importantes et sur lesquelles peut-être je pourrais demander à Mme Brusniewski de réagir. Françoise Dolto opposait le langage sonore au langage ressenti. C'est-à-dire le langage sonore, c'est quand je suis en train de parler, par exemple, vous avez tous entendu langage sonore et langage ressenti. Seulement, il y en a certains d'entre vous, avec le mot ressenti, eh bien, ils évoquent un certain nombre de choses, leur esprit vagabonde, et le mot ressenti les envoie sur des aspects de leur biographie qui fait que, bon, ils continuent à penser. Alors que si on s'en tient au langage sonore, à l'inverse, ben, c'est quelque chose qui peut éventuellement passer sans qu'on y fasse très attention. Merleau-Ponty, lui, il disait quelque chose qui me paraît aussi très intéressant. Il opposait la parole parlée et la parole parlante. Et de son point de vue, la parole parlante, c'est une parole dans laquelle la subjectivité du patient est entièrement impliquée. Et la subjectivité aussi du soignant. C'est-à-dire une parole parlante, c'est qu'il y a un sujet, et deux sujets, puisqu'on parle de médecine de la personne, deux sujets, deux personnes qui sont parlants. S'il y a un peu de parole parlée, or il y a très souvent dans une consultation, moi c'est ce que j'ai vu, beaucoup de paroles parlées. De paroles parlées, ça veut dire de paroles déjà habituelles, répétées, auxquelles on a l'habitude de faire référence, et qui bien évidemment... sont presque des syntagmes obligés, mais dans lesquels l'investissement de la biographie de celui qui parle n'est pas réellement partie prenante. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez, Mme Brusniewski.
Je pense. Alors, ce que je pense de ce que vous dites, en tout cas, les idées viennent. Moi, j'aurais quand même envie de reprendre sur cette clinique que j'appellerais un peu de l'incertitude. Et heureusement qu'il y a ce qui se dit, ce qui est ressenti, ce qui peut être entendu, et que cette surdité dont vous parliez tout à l'heure, elle est parfois nécessaire pour pouvoir supporter ce que le médecin possède comme savoir. C'est quand même incroyable, cette relation médecin-malade. Alors, je suis désolée, je reviens au médecin. Moi, je suis comme, contrairement à ce que disait M. Spire, je ne suis pas psychiatre. Je ne suis donc pas médecin. Hein, donc, je suis psychologue, analyste, mais pas médecin. Et je pense que c'est vrai qu'il revient au médecin d'être quand même le messager de la mauvaise nouvelle. Hein. Et ce messager de la mauvaise nouvelle, bien souvent, celui qui est là pour recevoir cette mauvaise nouvelle, il n'a pas forcément envie de l'entendre. C'est pour ça que j'ai fait part de ce témoignage, parce que je trouve qu'aujourd'hui, en 2014, on en revient et qu'on se dit que, effectivement, il faut parfois aussi ne pas trop en dire, parce que quand même, la relation entre les soignants et le malade, on parle d'autonomie, mais je suis désolée. Soyons quand même, ne soyons pas hypocrites, il y a une asymétrie totale entre les soignants qui sont bien portants et le malade qui est dans sa plus grande vulnérabilité. Comment est-ce que nous pouvons être autonomes, être tout à fait éclairés, alors que la personne humaine là est dans le moment le plus vulnérable de sa vie, qu'elle soit médecin ou fleuriste, quel que soit son milieu, je veux dire, c'est quand même cette vulnérabilité qui rend une asymétrie entre les deux. Hein. Donc je crois que annoncer une mauvaise nouvelle, on parlait du dispositif d'annonce, moi me semble-t-il, parce qu'on disait aussi que ça pouvait, le docteur Kipman disait qu'on ne pouvait pas parler que de la relation médecin-malade et qu'il fallait penser les liens hein, qu'il y avait autour du malade. Je suis d'accord. Mais en même temps, lorsqu'il y a une annonce de mauvaise nouvelle, ça se fait, et ça ne, à mon avis, me semble-t-il, ça ne peut pas se faire en dehors d'une rencontre entre deux personnes. Entre une personne dont on espère qu'elle a un savoir, et pas un supposé savoir, mais un savoir supposé pour pouvoir soigner ce cancer, et donc dans sa plus grande compétence médicale, et on espère que ce médecin va sauver des vies. Et dans le même temps, et c'est vrai qu'on en demande beaucoup aux malades, mais on en demande aussi beaucoup aux médecins, on demande aux médecins d'être un excellent médecin compétent sur un plan médical. On lui demande aussi d'être un excellent psy, c'est-à-dire qu'il puisse sonder ce que le malade est capable d'entendre et dans quel milieu est sa biographie, etc. Et on lui demande aussi d'être un excellent juriste pour ne pas recevoir le lendemain, une plainte parce qu'il n'a pas fait signer bientôt le consentement éclairé, bientôt les directives anticipées, la personne de confiance, etc. etc. Voilà.
Nicole Poirier.
Oui, ben, je vous écoute parler, puis ça me soulève une question auquel je n'ai pas vraiment de réponse, mais qui je réalise en vous écoutant à quel point c'est complexe, même lorsque la personne est en mesure de à toutes ses facultés intellectuelles d'entendre un tel diagnostic, et à quel point ça varie aussi d'une personne à l'autre. Et il y a des traitements aussi qui existent dans les domaines, surtout de la cancérologie. Et là, ça m'amène à la question où, encore aujourd'hui, on voyait sur Internet toutes les démarches qui sont faites pour arriver à un diagnostic de plus en plus précoce de maladies comme de maladies neurodégénératives. Et même savoir que la personne va éventuellement développer la maladie. Mais est-ce que quelqu'un peut me répondre à qui ça sert? Ces questions-là de diagnostiquer de façon aussi précoce, alors qu'on sait qu'actuellement, il n'y a pas de traitement reconnu. Actuellement, il y a des médicaments qui... est-ce que j'ai dit quelque chose? Non? Non, mais c'est... Parce que vous avez annoncé qu'on allait parler des progrès technologiques. Je me dis, aujourd'hui, dans les conditions de vie dans lesquelles les gens sont, pourquoi on met tant d'énergie à diagnostiquer alors que après le diagnostic, après que la personne a eu sa relation avec le médecin, ben c'est bye-bye parce que ce que des médecins d'ici, de Poitiers, m'ont déjà dit, alors que je leur ai dit, mais pourquoi vous tenez tant à préserver des médicaments dont l'inefficacité a été maintes fois contestée et qui ont des effets secondaires prouvés. Pourquoi vous y tenez tant? Puis le médecin m'avait répondu, mais qu'est-ce qu'on va dire à la personne? Ça soulevait toute la dépendance du médecin aux médicaments, finalement, à mon avis.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que il y a une demande du malade à laquelle je me demande s'il faut effectivement répondre. et ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est par vous, qui est une demande de sécurité, de réponse sûre. Qu'est-ce que j'ai exactement ? Est-ce que finalement l'interrogation du médecin en face de ça est la place pour quelque chose qui est je ne sais pas exactement vous répondre, n'est pas quelque chose d'absolument essentiel ? D'abord, tout simplement parce que aujourd'hui, en ce qui concerne les conditions de temps qui sont laissées aux patients, on ne sait pas. Combien de fois j'ai vu un patient demander à un cancérologue devant moi « Docteur, j'en ai pour combien de temps ?» Alors là, il y a beaucoup de cancérologues, vous voyez, qui répondent « Je ne sais pas ». Je trouve ça très bien. Mais il y a des cancérologues qui se permettent de répondre « Environ tant ». Et je trouve ça très inquiétant. Parce que, si vous voulez, d'abord, ils ne savent pas. Ensuite, cette réponse positive prend la place de quelque chose qui peut être, au fond, un champ à explorer, un champ à inventorier. Et ça me paraît absolument fondamental. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Bensadoun ?
Effectivement, ça c'est... Je suis content que vous disiez que la plupart ne répondent pas ça, parce qu'effectivement, c'est l'immense majorité répondent que chacun est individuel et qu'on a des statistiques, mais qu'il faut rapporter cela à l'individu. Par contre, pour répondre à ce que tout à l'heure Nicole Poirier a soulevé comme problème, dans le domaine de la cancérologie, je crois qu'il faut être totalement différent, puisque là, on a des traitements et que plus la maladie est dépistée précocement, plus on va avoir de chances de guérison. Et là, tous les tests prédictifs, à la fois sur le plan pharmacogénétique, de la personne et pharmacogénomique, on a je crois qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'espoir dans ces tests pour pouvoir avoir un diagnostic précoce, pas même un dépistage, mais disons une prédisposition génétique au cancer. Pour effectivement la maladie d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives, c'est quelque chose qui a déjà été en France en tout cas discuté, c'était de peut-être faire ces tests, mais de ne pas les annoncer, de garder cela au niveau familial éventuellement, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de solution thérapeutique. Mais bon, ça, c'est en tout cas des discussions. Et je crois que ça fait partie de ce qu'on nous disions, c'est la place de la personne. Est-ce que pour cela, il ne faut pas faire de tests aujourd'hui ? Je crois qu'on a quand même des évolutions majeures thérapeutiques et que les médicaments d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain et qu'on aura peut-être des solutions.
Pour ne pas se tromper quand même sur l'état de la médecine par rapport à cette question de la médecine de la personne, je voudrais seulement témoigner de ce que l'année dernière, j'ai été invité à la Maison de la Chimie à Paris à une grande rencontre de cancérologues sur la personnalisation des traitements. Alors je me suis dit, c'est formidable. Moi, je suis très content qu'on m'invite à ça. Ça va être passionnant. Et de quoi on a parlé ? On a parlé des conditions dans lesquelles les traitements biologiques aujourd'hui, pour des raisons qui sont liées au progrès de l'analyse biologique, permettaient de personnaliser le traitement chimique. Donc on vous parle de la personnalisation du traitement chimique. Forcément, j'ai posé le problème d'un autre type de personnalisation, c'est-à-dire de la personnalisation du malade, en disant que nous ne sommes pas que des réceptacles d'une chimie, mais nous sommes aussi des êtres qui parlons, et qu'à la différence des arbres, nous ne sommes pas fixés sur un sol, mais nous sommes des existants avec un langage qui, en conséquence, nous amène à chacun d'entre nous avoir une personnalité qui a une histoire, et que ça intervient dans le cours de la maladie, et que la maladie frappe la biographie de cette personne. Et ils m'ont dit, écoutez, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de la personnalisation génomique. C'est ça qui est intéressant. C'est la personnalisation génomique.
Vous avez dû être efficace, puisque l'année prochaine, on organise un congrès à Nice en mars qui abordera justement tous ces aspects, y compris celui-là et même en premier celui-là. Donc ça bouge.
Madame Sanet, Madame Malka, j'aurais voulu que vous abordiez le problème de la formation, puisque c'est important, cette formation des enseignants, des soignants. Dans quelles conditions, à votre avis, peut-on éventuellement influer sur cette formation ? Moi, j'ai eu la chance de parler juste à des recteurs réunis par le ministère de la Recherche en matière de formation médicale. Et j'ai été très, très étonné, leur disant l'importance des sciences humaines et sociales, et leur disant que c'était... Je n'arrivais pas à comprendre comment la plupart des médecins n'avaient qu'en première année quelques heures de formation. Je parle des médecins, là, seulement. Quelques heures de formation en matière de sciences humaines et sociales, et quelquefois pour certaines spécialités en gériatrie, il y a effectivement une formation. Pour les internistes, il y a effectivement une formation en sciences humaines et sociales. Mais pour la totalité des médecins, c'est très, très rare. Alors que la France a une compétence en sciences humaines et sociales reconnue internationalement. Ça ne touche pas les études médicales. J'ai pu aller en Suisse poser des questions aux médecins suisses, poser des questions aux médecins allemands, poser des questions en Belgique, poser des questions aux États-Unis et en Allemagne. C'est absolument incroyable. Mais dans ces cinq pays que je viens de vous citer, tout au long des études médicales, il y a plusieurs heures par semaine de formation en sciences humaines et sociales. Comment expliquer que ce ne soit pas le cas en France ?
Alors, il se trouve que pour préparer aujourd'hui cette table ronde, hein, j'ai travaillé avec une enseignante de la faculté de médecine. Hein, alors, on peut dire que, et je crois que c'est l'esprit aussi de ce congrès, on peut envisager les choses d'une façon macro, c'est-à-dire, dans les études de médecine, il n'y a pas de sciences humaines, il n'y a pas beaucoup d'heures de sciences humaines, mais on peut le voir aussi comme un espoir que localement, il y ait des alliances qui se fassent et des travaux qui puissent, par des envies de travailler ensemble, quelque chose qui puisse se généraliser et montrer que c'est possible. Hein. Je pense que c'est surtout l'esprit, enfin moi c'est dans cet esprit que je suis là. Et c'est vrai que les études infirmières depuis longtemps hein, ont introduit alors les sciences humaines, hein, même si je dis humaines, je sais si c'est M. Sicard, M. Kipman qui ne voulait pas entendre parler des sciences humaines, c'est M. Kipman. mais les sciences, la sociologie, la psychologie, le raisonnement clinique font partie des études infirmières, même avant la réforme des études. Et depuis quelque temps, hein, nous travaillons avec la faculté de médecine de Poitiers pour justement rechercher, travailler sur les invariants. Savoir, hein, expérientiel et théorique, nous pouvons identifier comme étant commun à nos différentes professions. Et en fait, on est en train vraiment de construire hein, des contenus, mais pas que des contenus, des méthodes pédagogiques et des retours sur expérience communes pour montrer à tous ces soignants que, en matière de relations, par exemple, en matière de centration sur la personne, c'est surtout en matière de relations soignant-soignant et de l'approche complexe de la personne, puisque c'est le lien avec la médecine de la personne, tout ce que nous pouvons faire ensemble, hein, tout ce que nous pouvons travailler ensemble, et alors peut-être pas dans les mêmes temps, mais avec des conceptions pédagogiques communes. Hein, alors par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Il y a Madame Mijot qui est là dans l'assistance. Elle s'intéresse beaucoup aux ateliers que nous faisons à partir de jeux de rôle sur la démarche relationnelle hein, pour travailler sur la relation soignant-soigné. Donc elle va venir en observatrice sur ces ateliers-là pour essayer de transférer ces façons de travailler avec les étudiants en médecine de Poitiers. Hein, donc ça, c'est un exemple hein, que je peux vous donner. Donc je pense qu'il y a une réelle envie toutes ces formations de se réunir autour de ce qui les rassemble. Après, chacun a aussi des savoirs plus académiques, plus propres à sa profession, hein, plus théoriques. Mais, et aussi, ce que je veux rajouter, puis après je vous laisse la parole, c'est que les formations sont en train de changer de conception. C'est-à-dire que les savoirs, comme on l'a dit ce matin sur la technique, les savoirs sont au service de la compétence et du soin. Ils sont simplement une ressource qu'on va chercher quand on veut soigner et non plus, on n'est plus dans une approche disciplinaire où on étudie l'appareil cardiovasculaire, ensuite les poumons, ensuite la santé mentale. Le processus est en train de s'inverser, enfin, dans notre expérience.
Sylvie Fanzang, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité des chercheurs en sciences humaines, parce que c'est facile, j'ai tout de suite dit ce qu'il en est de la responsabilité institutionnelle des responsables de l'enseignement médical dans ce pays. Je suis persuadé pour ma part qu'elle est considérable. Mais est-ce que nous, qui faisons des sciences humaines, est-ce qu'on en fait suffisamment pour essayer de faire avancer l'idée qu'il faudrait que, comme dans beaucoup d'autres pays, la France, et notamment les structures médicales françaises, s'interrogent sur la place des sciences sociales et humaines dans la formation des médecins.
Alors, sur ce point, je dirais que je ne pense pas que les disciplines de sciences sociales soient responsables. Je pense plutôt qu'elles sont victimes. Pourquoi je pense ça? C'est parce que ce qu'on a dit sur l'absence ou la quasi-absence de ces disciplines dans la formation médicale, on la retrouve au niveau même de la recherche. Si on prend le cas des disciplines comme l'anthropologie médicale, par exemple, on est quasiment, je crois qu'on peut nous compter sur les doigts peut-être des deux mains en France, alors que outre-Atlantique, enfin pas seulement d'ailleurs aux États-Unis, mais même dans les pays d'Europe du Nord, il y a des centaines, si ce n'est des milliers d'anthropologues médicaux. Donc je veux dire que c'est aussi la place qui est faite en France aux sciences sociales de la santé qui pose problème. Hein. C'est pas seulement la formation des médecins.
Oui, merci. Moi, il y a des faits au Québec. Sûrement que ce n'est pas la même chose en France, là, mais je vous le dis quand même. Au Québec, il y a des études qui ont démontré qu'il y avait 10 fois trop, qu'on donnait 10 fois trop de médicaments antipsychotiques aux gens qui sont en résidence ou en centre d'hébergement. 10 fois trop. On parle de neuroleptiques, antidépresseurs et tout ça. Il y a 30 à 60 % des gens qui souffrent de dénutrition lorsqu'ils quittent leur maison puis qu'ils vivent en institution. Ça, c'est sûrement pas ça en France non plus. Hein. Mais il y a de la douleur qui est mal repérée et qui est traitée aussi avec des neuroleptiques parce qu'il y a un manque de formation. Puis je ne parle pas juste des médecins, mais je parle des équipes et de la connaissance de la réalité de la personne. Et là-dessus, moi, souvent, je dis les bons médecins, ce qui fait les bons médecins, c'est souvent les bonnes équipes qui apprennent qui comprennent la maladie et qui alimentent bien les médecins pour éviter qu'on glisse dans ce que vous appelez, puis qu'on appelle aussi chez nous, la médicalisation de situations qui sont non médicales, mais qui, mal comprises, est prise dans un système qui est celui qu'on connaît, puis on a la même logique de système chez nous. Prise dans cette logique-là, bien, on prend une situation qui est souvent une force. Prenez l'exemple de quelqu'un qui marche. C'est une force en soi, c'est pas un problème médical, mais si la personne ne marche pas au bon moment et à la bonne place, rapidement, puis en plus elle a un diagnostic d'une maladie, d'une démence par exemple, on va rapidement dire elle ne marche pas, elle déambule. Au Québec, on dit elle fait de l'errance. Et ensuite, si c'est le soir, bien, elle fait de l'errance nocturne. Et puis, on n'a pas décodé son besoin, qui est d'aller aux toilettes, de manger, d'être comprise, on va dire que c'est un trouble d'errance nocturne. Et puis, si elle se trompe de place ou de chambre, on va rajouter le terme invasif. Et puis, si elle réveille la personne, on va dire perturbateur. Et puis là, pourtant, elle marche, puis peut-être qu'elle a les mêmes besoins que vous et moi, se lever, aller aux toilettes, manger, mais dans un contexte où on ne la comprend pas, on va utiliser des mots qui vont médicaliser finalement sa situation, parce que qu'est-ce qui se passe? Bien, le médecin arrive, et puis devant un constat aussi accablant, va répondre avec les moyens que lui a dans son coffre-outil à lui. Et si une personne dans une maison dit « je m'ennuie », ça, c'est pas, s'il n'y a pas de réception tellement pour ça. Mais si elle dit « je veux mourir », là, vous voyez arriver les psys puis les psychiatres. Si elle dit, par exemple, « je veux voir mes enfants » ou « je veux m'en aller chez nous », il n'y a pas tellement de réponse à ça. Mais si elle dit « j'ai mal à la tête », ah, tout d'un coup, on va arriver l'infirmière ou le médecin. Et là, on médicalise une réponse à un besoin qui est non médical. Je trouve que là-dessus, on a partout un gros travail à faire sur la connaissance des pathologies, puis le soutien des équipes aussi.
Martine Rosiewski. Vous l'avez à côté de vous, le micro. Là.
Oui, je voulais revenir à la formation. Je pense qu'effectivement, on a aussi nos responsabilités en tant que psy. Au sein d'un hôpital, c'est auprès des jeunes médecins, les internes, les externes. Il en va de la responsabilité aussi d'un directeur d'hôpital, voire même des chefs de département. On m'entend pas ? Si. Lorsque des nouveaux internes ou externes arrivent dans un nouveau service, on devrait plutôt sensibiliser, je dirais, les vieux médecins à ce qu'il y ait des cours sur l'importance de la relation médecin-malade. Et là-dessus, je voudrais surtout dire l'importance du travail en groupe Balint, où tout à l'heure, on parlait du médicament. Et je pense que Balint a été quand même un des premiers à dire que le médicament le plus utilisé en médecine, c'était le soignant lui-même. Et là, ça remonte à très longtemps, hein, il a dit ça dans les années 60, et qu'il en va de notre responsabilité de psy quand nous sommes dans les hôpitaux, effectivement d'être auprès des malades et des familles, mais aussi de sensibiliser les médecins à l'importance du compagnonnage auprès des jeunes médecins, des internes et des externes, et de donner un temps pour qu'ils puissent, je dirais, penser avec un E et aussi avec un A, la médecine au quotidien. Hein. Parce que pour un jeune médecin, et on en parle, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais au fond, on parle quand même de la médecine de la personne, et la personne, en l'occurrence, c'est aussi le jeune médecin, le jeune interne, à qui on en demande beaucoup et qui est très peu soutenu parfois en raison de la charge de travail. Et on ne parle pas beaucoup, effectivement, de la grande souffrance, voire même du burn-out des internes, parce que moi, juste pour deux petites minutes de précision, on travaille actuellement, et je trouve que ça a été quand même extraordinaire de la part de l'Institut Curie de Paris, où je travaille, et où il y a 10 ans, ils ont ouvert un poste mi-temps pour un psy, donc ce poste que j'occupe maintenant depuis près de 10 ans, exclusivement dédié pour le personnel, hein, c'est-à-dire que je suis là à mi-temps à l'Institut Curie pour être auprès de tous les soignants, les médecins, les jeunes internes, les externes, mettre en place des groupes de parole, des temps pour justement à la fois être auprès de la clinique de la personne malade que je ne vois jamais, mais que j'entends à travers ce que peuvent en dire les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, tous ce que vous appelez les soins de support, toutes ces personnes-là, et les médecins.
Ça, c'est remarquable.
Et ça, c'est de la formation. Il n'y a pas que la formation universitaire qui compte.
Parfait. Non, je voulais rebondir effectivement sur ce que vous venez de dire. Je crois que c'est très important. Et pour donner aussi un message positif, qui est celui de la nouvelle génération d'oncologues, d'internes justement qui sont aujourd'hui très intéressés par les sciences humaines et sociales, et aussi à nos équipes. Je parle de l'université de Poitiers, on a quand même ici avec les équipes de santé publique qui s'orientent de plus en plus vers des recherches en sciences humaines et sociales, avec des programmes grâce au nouveau plan cancer, plan 2 et maintenant 3, qui sont très orientés sur cette thématique. Et on n'a pas à rougir. Ici à Poitiers, on a ici par exemple Sarah Dujoncois qui fait beaucoup de travail dans ce domaine. De nombreux programmes de recherche ont été soumis par les équipes de Poitiers avec des résultats très positifs au niveau du cancer au pôle. Je crois qu'on peut quand même donner aujourd'hui un message d'espoir parce que ça a beaucoup changé en 5 à 6 ans. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'internes de la dernière génération ont des programmes de recherche dans ce domaine plutôt qu'en technique. Et je crois que c'est une évolution qui, pour moi, m'a même surpris. J'ai beaucoup d'internes qui sont sur des thèses de médecine et voire de sciences dans ce domaine. Donc je pense qu'on peut espérer dans les années à venir beaucoup d'évolution.
Alors maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Si vous avez des questions, des points de vue, c'est à vous. Oui.
Alors, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai des remarques sur ce qui a été dit. Docteur Montaz, des soins palliatifs à Poitiers. D'abord, j'ai cru comprendre dans votre première partie que nous, soignants, nous étions quasiment délétères. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc, voilà, et ça m'a un petit peu froissé, agacé. Mais je pense que vos propos n'étaient pas d'être tyranniques vis-à-vis de nous, soignants, mais simplement de nous interpeller, et je vous pardonne. Le patient n'est pas au centre de mes préoccupations. Je suis au centre avec lui. Il est au centre avec moi. Il est au centre avec les infirmières. Il est pas tout seul. Et vous voyez, je fais un pont avec ce que j'ai entendu ce matin, ce que j'ai découvert ce matin. C'est être avec. Et vraiment, c'est ça, c'est être avec. Peu importe s'il est au centre, sur le côté, à droite, à gauche, mais c'est qu'on soit avec lui, pas forcément lui au centre, parce que c'est pas facile d'être au centre. Hein. Moi, là, je suis en train de vous parler, c'est pas facile. Vous voyez, il faut être avec. Deuxièmement, moi, je pense que vous avez une grande responsabilité, vous qui n'êtes pas soignant. C'est-à-dire, avez-vous été dans des congrès de cardiologie, de neurologie, pour essayer de nous amener cette bonne parole? Ici, vous avez un public qui est conquis, qui vous écoute, qui s'intéresse effectivement à non seulement la médecine de la personne, mais qui cherche à apprendre. Peut-être que d'autres confrères qui sont, j'allais dire, plus dans la technicité, parce que c'est... Et heureusement, d'ailleurs. Eh bien, je pense que ça leur ferait peut-être du bien d'entendre et d'être enseignés. Est-ce que vous, vous avez cette possibilité, ou est-ce que vous faites tout votre possible pour aller dans ces grands congrès où il y a de la technicité pour essayer effectivement nous interpeller? Les soins palliatifs, qui est un domaine que je connais, au début, on n'était pas du tout invités dans ces instances de grands penseurs. Mais aujourd'hui, parce que nous avons frappé aux portes, on nous invite dans des congrès de cardiologie, etc. Je pense que vous avez une place à jouer. Et donc, c'est de votre responsabilité, tout comme de la nôtre, de mettre... De réaliser des soins de la personne. C'est vrai que moi aussi, je préférais qu'on parle de soins de la personne plutôt que de médecine de la personne. Alors, je vais encore accaparer un tout petit peu. C'est vrai que vous avez raison. Peut-être que les personnes qui ont un niveau socio-culturel peut-être plus délicat ou moins important, eh bien, que faisons-nous, soignants? Et vous l'avez dit aussi dans un autre moment, il faut mieux se taire que raconter des bêtises. Et donc... je vois en équipe, lorsque nous avons des choses graves à dire, eh bien, quand on n'a pas le répondant en face de nous, la personne ne parle pas, elle ne nous questionne pas, parce qu'elle a peur de nous, des blouses blanches, des soignants, etc. Eh bien, faut peut-être mieux qu'on se taise plutôt que de leur dire trop de choses. Et peut-être cela peut expliquer la différence, non pas voulue, mais par précaution. Je veux dire, les soignants, je pense, sont des gens précautionneux, attentionnés vis-à-vis des patients. Voilà, j'avais plein de choses à dire, mais je voudrais laisser la parole. Je crois que nous sommes là pour réviser nos fondamentaux, c'est-à-dire dans la relation ou dans ce soin que nous portons aux patients, que nous soyons aides-soignants, psychologues, médecins, etc. C'est vrai que... vis-à-vis de l'annonce d'une maladie grave, vis-à-vis de l'annonce d'un enfant qui est atteint d'une maladie très grave et de l'approche de ses parents, eh bien, il nous faut s'arrêter, nous poser. Et ça, c'est pas courant. Hein. C'est-à-dire, il faut plus être dans la fuite. Et ça s'apprend, je suis d'accord avec vous. Quand on sait plus faire, quand on sait plus, eh bien, il faut être avec. On ne l'a pas vraiment appris pendant nos études. Mais ce que je crois, je suis certain, c'est que tous les soignants, infirmières, aides-soignants, médecins, on est tous d'accord pour apprendre. Et je crois que c'est valable dans tous les domaines, mais vous avez une responsabilité. Ça, j'en suis persuadé. Alors, je vais terminer. Moi, je ne sais pas faire. Annoncer une maladie grave, une maladie métastasée, etc., la seule chose que je sais faire en équipe, c'est de garder confiance dans la personne qui est en face de moi sans avoir peur d'elle. C'est de la regarder avant tout comme une personne, mais ça c'est facile à dire, hein, et non pas comme une personne qui a une maladie, mais ça c'est ça passe partout, etc. C'est simplement d'avoir une relation fraternelle. Bon.
J'ai cru comprendre que c'était un commentaire et non pas une question, mais je vais quand même me permettre de répondre, parce que je pense que certaines choses de ce que vous avez dit s'adressent un petit peu à moi, un petit peu aux autres. Déjà, je pense que c'est tout à fait dommageable que vous ayez pris contre vous certaines choses qui ont été dites là, parce que le but, ce n'est absolument pas de faire une attaque aux personnes que sont les médecins. Là, je parle des personnes. C'est plus d'un système qu'il s'agit ici, hein, d'un système médical en France qui, de fait, la relation médecin-malade ne se passe pas en France comme elle se passe dans d'autres pays. Donc, il y a là des données socio-culturelles et historiques qui dépassent la personne du médecin. Et quand vous disiez que ça n'était pas volontaire, par exemple, le fait de ne pas informer des gens de milieux social défavorisés, j'en suis absolument convaincue. Je suis convaincue que les médecins essayent de faire au mieux et qu'ils sont guidés par le principe de bienfaisance. Mais ça, ce sont des mécanismes qui sont inconscients et c'est aussi notre rôle de le décrypter. S'agissant de la responsabilité, est-ce qu'on va dans les congrès? Oui, on va dans les grands congrès nationaux et internationaux et un certain nombre de médecins nous réclament parce qu'ils voient qu'on a un regard un peu différent sur ce qui se passe que le vôtre, ce qui est bien normal. C'est la complémentarité des regards, je pense, qui fait la richesse de nos échanges.
J'ajouterais la chose suivante pour compléter la réponse. C'est vrai que quand on fait une analyse critique, parce qu'on a assisté à un certain nombre de choses qu'on ne fait que décrire. Hein.
Oui, mais vous n'avez assisté qu'à certaines consultations.
Oui,
hein, de spécialistes, entre autres.
Oui, en cancérologie. Moi, je n'ai assisté qu'en cancérologie. Entre, je vous dis, je crois vraiment avoir vu tous les services de cancérologie français et au moins
mais un. La maladie grave, il n'y a pas que le cancer.
Mais oui, oui, mais moi, chacun parle de ce qu'il connaît. Je ne connais que ça, moi. Et en conséquence, là, dans ces services, moi, je n'ai essayé de faire que décrire la chose. Oui, je suis désolé d'entendre. Attendez, je termine. Je suis désolé de constater que chaque fois qu'on explique ce qui ne va pas et ce qui crée un malaise, et chez le médecin, et chez le patient, il y a des médecins qui ne supportent pas qu'on dise la chose.
Non, moi, je crois pas.
Attendez, je voudrais terminer quand même. Qui ne supportent pas qu'on dise la chose, et pourtant, c'est ce qu'on a cru constater. Alors, bien évidemment, on peut se tromper quand on observe la chose. On peut se tromper, on peut avoir un mauvais jugement. Mais tout à l'heure, docteur, vous disiez, tous veulent apprendre. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit dans cette situation optimiste où tous veulent apprendre. Moi, je vais vous dire, je suis invité dans très nombreux congrès de médecins, compte tenu de ce que j'ai écrit, en cancérologie et aussi ailleurs. Et je constate que tous ne veulent pas apprendre. Ils veulent à la fois entendre et en même temps, ils disent finalement, bah non, c'est pas du tout comme ça, ça ne nous concerne pas. Donc si vous voulez, je ne serais pas aussi optimiste que vous en disant que tous veulent apprendre. Et il y a des acquis des sciences humaines que des médecins ne connaissent pas et qui, de mon point de vue, leur seraient profitables et qu'ils confondent avec... Alors ce matin, on a parlé de l'humanisme. Moi, j'en parlerai pas de façon aussi dévalorisée que ça a été fait ce matin, mais qu'ils confondent avec la gentillesse ou avec la sympathie avec le malade. C'est pas du tout ça.
Bon, ben moi, je ne suis ni humaniste ni gentille. Je suis médecin généraliste depuis 26 ans. J'interviens à la faculté en tant que maître de stage sur l'annonce d'un diagnostic grave. Les internes, alors moi, je ne suis pas du tout enseignante et je ne veux surtout pas l'être. Je suis médecin de premier recours où j'écoute, j'essaye de diagnostiquer et ensuite j'apprends et j'en parle avec mes patients. Donc moi j'interviens au CHU parce qu'on m'avait demandé de le faire, donc auprès des internes, pour justement avoir un groupe d'échanges professionnels avec ce devoir qu'on avait d'annoncer le diagnostic grave à un patient. Alors je pense que quand on est médecin, on est confronté avec la maladie grave tous les jours quasiment, parce que être diabétique c'est grave, être parkinsonien c'est grave, avoir des maladies dont on ne peut pas donner un diagnostic c'est grave, et tous les patients le vivent comme ça. Ce que je trouve moi je me suis sentie agressée par ce que vous disiez, comme Laurent, parce que vous parlez que de médecins qui ne nous concernent pas, qui sont des cancérologues, dans un bureau au sein d'un CHU, où ils ne font les pauvres que ça toute leur journée. Il faut savoir quand même qu'avant que ces patients arrivent à ces médecins, il y a eu d'autres intervenants. Ils n'arrivent pas tout seuls à une consultation de spécialiste avec le diagnostic écrit sur le front ou sur un papier. Ils ont été en contact avec des intervenants, avec des soignants à qui ils se sont plaints, à qui ils ont évoqué leurs symptômes, avec qui ils sont allés chercher le diagnostic. Donc ils ont été préparés, c'est ce que je dis aux étudiants. Ils n'arrivent pas à l'hôpital sans savoir des choses. Heureusement, on parle quand même avec nos patients. Je pense que moi je travaille beaucoup avec Brigitte, même les infirmiers quand ils voient quelque chose qui ne va pas, leur demandent de consulter leur médecin traitant. Donc quand vous avez ces gens qui arrivent auprès d'un spécialiste, ils ont déjà appris des choses, ils ont passé des radios, ils ont rencontré plusieurs médecins qui ont commencé à leur dire qu'effectivement ce qu'ils ressentaient pouvait être grave. Pour l'Alzheimer, très souvent on leur fait passer des tests. Et moi je suis tout à fait d'accord avec la psychanalyste, c'était celle qui me réconfortait le plus dans vos discours, parce qu'elle avait un discours humain, hein, puisqu'on s'occupe de humains, de patients, de gens qui sont en souffrance, qui veulent avoir un diagnostic, qui veulent être guéris, qui veulent vivre, mais qui ont besoin d'une écoute et qu'on puisse leur apporter de l'espoir, même si ce n'est pas pour longtemps. Et vraiment dans votre discours, parce que quand même, je pense qu'un médecin qui a fait 10 ans d'études est capable d'aller se former, d'aller lire, d'écouter, de partager, de faire du balint, de faire un tas de choses. On n'a pas besoin de l'intégrer dans des études. On est, je pense, les pauvres internes, 10 ans, ils ont 3 années où ils sont formés avec des grandes formations sur l'annonce du diagnostic, un tas de choses qui sont très bien faites et on cède de votre savoir. Donc je trouve que c'est été un petit peu trop loin dans votre exposé et c'est dommage que vous ne nous ayez pas donné la parole à chaque fois que chacun avait parlé au sujet des sujets aussi importants que ça. Et vraiment, je suis un petit peu déçue parce que je suis venue à ce congrès parce que justement, je croyais que c'était un respect de la personne et je pense que nous, là, moi, je ne me sens pas du tout respectée.
Oui. Quel dommage. Bon. Oui, oui. Je comprends quand vous disiez que la personne, quand elle est malade, avant de rencontrer un spécialiste en CHU, bien entendu, elle voit son médecin traitant. Pour ce faire, il est vrai aussi que malheureusement, quand même, à l'hôpital, quand une personne est atteinte d'une maladie grave et qu'elle relève de soins maintenant qui peuvent lui être donnés maintenant qu'à l'hôpital, elle attend du spécialiste aussi, à la fois des compétences sur un plan médical, puisqu'elle attend de lui une spécialité, et puis aussi une relation, je suis désolée du terme, la plus humaine possible. Et moi, j'ai envie de reprendre ce terme, et je pense qu'effectivement, la personne malade a besoin d'être dans une rencontre avec une autre personne, même s'il y a une asymétrie. Alors, sauf qu'aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, on parle de la clinique de la personne, et je trouve ça formidable, de la relation médecin-malade, d'un temps pour penser, c'est moi qui en ai parlé, mais tout le monde ici, je le sais, pense que c'est essentiel, le groupe Baline, penser la médecine, le cas singulier, c'est essentiel, mais ce qu'on oublie quand même aujourd'hui, c'est que le malade a affaire à la discontinuité des soins, hein, entre le moment du diagnostic initial et la phase terminale de sa maladie, il est en permanence pris avec je ne sais combien d'acteurs, qu'un médecin cancérologue dans un CHU. Effectivement, je dis qu'on en demande beaucoup aux malades, mais on en demande aussi beaucoup aux médecins, parce qu'un médecin spécialiste dans un CHU, un jour, il y a un cancérologue qui m'a dit « Martine, vraiment, j'aimerais bien que tu viennes assister à ma consultation. » Alors, ce n'est pas mon travail à Curie, puisque je suis là dans un regard dans l'après-coup. Je ne vois jamais ni les malades ni les familles. Mais bon, là, j'ai fait une entorse, on transgresse tous, et je suis allée à sa consultation dans un bureau sans fenêtre. C'était le mois de juillet. C'était la canicule. Elle avait à sa consultation pendant une journée 30 patients. 30 patients. Un jour, à un moment donné, elle reçoit une patiente qui arrive dans le bureau et moi, j'étais là comme observatrice. Plein de monde dans la salle d'attente. Elle arrive dans son bureau avec un visage. Je me demandais comment elle venait arriver là. Elle était avec un ventre comme ça, donc plein d'acide. Elle était grise, accompagnée de son mari et venant de Bourges pour une énième chimiothérapie qui devait avoir lieu le lendemain. Elle venait à cette consultation de cette cancérologue pour que juste elle lui signe le papier comme quoi elle était bien arrivée et que demain elle subirait sa chimiothérapie. Ce n'était pas le médecin référent. Quand elle est arrivée, la première phrase que cette femme a lâchée au cancérologue, c'est « Docteur, je ne veux pas de ma chimiothérapie demain ». La salle d'attente était pleine. Elle pensait qu'avec cette patiente, elle en aurait pour 5 minutes. Parce que ce qui était prévu pour sa consultation avec cette patiente, c'était juste de remplir un papier. Elle y a consacré 1h30 parce qu'elle a entendu la balle qui lui avait été lancée, je ne veux pas de ma chimiothérapie. Mais ça voulait dire quoi pour cette cancérologue ? Ne pas vouloir de la chimiothérapie ? Ça voulait dire l'écouter, voir le mari à côté s'effondrer, puisque c'était la première fois qu'elle osait dire quelque chose. C'était aborder l'arrêt des traitements spécifiques. C'était aborder le pronostic. Elle venait à ce moment-là de dire qu'elle savait. Elle le savait avant, mais elle venait là de l'énoncer. C'était pour ce médecin prendre contact avec l'équipe mobile de soins palliatifs de Bourges, parce qu'elle venait de Bourges, etc. Une heure et demie. Quand elle est repartie, la malade suivante est arrivée en lui hurlant dessus au médecin. Pourquoi ? Parce que la salle était pleine, qu'il faisait extrêmement chaud et qu'elle avait pris beaucoup de retard à sa consultation. Voilà. Donc, juste cette petite vignette, en fait, qui est peut-être sans importance, mais qui prouve effectivement qu'à tous les niveaux, il y a une chaîne de solidarité à avoir entre... Effectivement, les personnes de cette table ronde qui nous apportent beaucoup sur un plan intellectuel, philosophique, sociologique, anthropologique, des médecins traitants, des infirmiers, des médecins spécialistes, et que s'il n'y a pas une chaîne de solidarité pour nous écouter tous ensemble, nous allons droit dans le mur, parce que tout le monde est tellement pris par une surcharge de travail qu'on a tous tendance à trouver un mauvais objet responsable de tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai qu'en ce moment, ça ne va pas très fort sur un plan de milieu de la santé. Voilà.
Monsieur ? Oui. J'ai été aussi très catastrophé de vous entendre pendant ces une heure et demie, parce que j'ai pris très au sérieux tous les obstacles que vous avez mis en évidence. Et je me dis qu'il n'y a qu'une seule conclusion, c'est que l'annonce d'une maladie grave est quelque chose d'absolument impossible. Alors j'avais envie de vous demander, mais par annonce, qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que c'est qu'annonce ? Ou qu'est-ce que ça devrait être ?
Oui, je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais moi je voudrais vous répondre. Je suis d'accord avec la dame qui parlait tout à l'heure, c'est un processus. Mais il se passe quelque chose en cancérologie, encore une fois, de très particulier avec le cancérologue. Évidemment, le patient qui arrive dans le bureau du cancérologue sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Il a entendu une réflexion, il a eu éventuellement un mot qui a été prononcé, mais ce que le service de cancérologie appelle l'annonce, c'est ce que va dire le cancérologue. C'est comme ça. Et ça vient confirmer un moment du trajet, mais ça vient, c'est un élément très très important. Et à ce moment-là, pourquoi ? Parce que malgré les bruits, malgré les analyses qui ont eu lieu, malgré ce qu'il a entendu sur ces analyses, le patient n'est pas sûr, ne sait pas ce qui va se passer. Et en conséquence, il a cherché sur Internet souvent, et il vient avec une lecture qui lui donne l'impression que son cas représente celui-là ou celui-là. Et il a des difficultés à parler devant le médecin. Il n'ose pas, parce qu'il y a une différence... cognitive. Bien évidemment, le médecin, c'est le compétent, c'est le sachant, et le patient il se considère comme non sachant en face du médecin, même s'il s'est renseigné. Et là, il se passe quelque chose, et je vous avais raison de dire que c'est très difficile, la consultation d'annonce. C'est la raison pour laquelle, moi, je me permets de penser que dans la formation à la consultation d'annonce, il devrait y avoir une implication du détour théorique. Ça veut dire quoi, le détour théorique ? Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'expérience, mais qu'il y a un acquis des sciences humaines et sociales qu'on devrait pouvoir prendre en compte. Et pour ma part, je regrette qu'il ne soit pas pris en compte. Voilà. Et je pense que là, il y aurait sans doute des éléments qui aideraient beaucoup de cancérologues que moi j'ai vus travailler à travailler différemment. C'est tout. Je ne dis rien d'autre.
Oui, je voulais juste dire que pour reprendre ce que vous disiez, je trouve ça plutôt bien que l'annonce soit vécue par celui qui doit annoncer comme un exercice extrêmement difficile. Ce qui est plus inquiétant, c'est de banaliser ce que le médecin a comme savoir encombrant et dont il doit en dire un peu quelque chose parce que le malade aussi attend quelque chose. Donc je crois qu'effectivement, c'est difficile. Le jour où on pensera que c'est facile parce qu'il y a un dispositif d'annonce, eh bien, c'est là où, effectivement, les malades, dans l'après-coup, disent « Ah ben quand même, le docteur, il m'a dit les choses, il manque de psychologie parce que J'ai plus le moral, il m'a asséné quelque chose. Et juste, je voudrais reprendre une phrase du professeur Vincent Ménager, que vous connaissez sûrement au moins de nom, et qui s'occupe d'une maladie la plus, je dirais, une des maladies les plus terribles qui soit, c'est-à-dire la sclérose latérale amyotrophique. Et il disait récemment, alors que ça fait des années qu'il travaille, comment bien expliquer, éclairer lorsqu'il faut expliquer à quelqu'un ce qu'est la vie sous trachéotomie. Les explications peuvent être bonnes ou mauvaises. Après 30 ans de pratique, je ne sais toujours pas. Eh bien, là aussi, on est du côté de la clinique de l'incertitude, c'est-à-dire que ce n'est pas, comme on le disait tout à l'heure, tout dire, ce n'est pas ne rien dire, mais c'est comment le dire et comment surtout celui qui va entendre ce que j'ai à lui dire va en faire. Et je crois que c'est autour de cette articulation où ça ne peut se passer qu'au cœur d'une rencontre humaine. C'est voir dans le regard de l'autre la trajectoire, la vie des mots. Quand les mots sont lâchés, ce qu'ils vont entraîner et ce que le médecin va voir dans le regard. Combien de fois j'ai entendu lors de groupes balines des médecins dire « j'ai dit quelque chose ». Au moment où je l'ai dit, j'ai senti que j'avais été trop vite, trop loin par rapport au cheminement intérieur du malade. J'aurais aimé reprendre mes mots, mais les mots étaient lâchés. Alors à partir de là, on travaille aussi sur, quand on a le sentiment d'avoir été trop vite au niveau des mots qui ont été lâchés, eh bien, comment poursuivre.
Docteur Kipman.
Oui, alors je vais être très bref parce qu'il y a toute une série de points que je vais reprendre demain de manière plus vaste et qui sont extrêmement importants. Par contre, je voudrais juste faire une remarque, comme on dit d'habitude, groupale. Les réactions de la salle à ce que vous dites me semble illustrer exactement une des difficultés de ce que Martine soulignait, c'est-à-dire comment faire une annonce diagnostique. Et comment cette annonce diagnostique peut ne pas être intime et que la présence de quelqu'un qui n'est pas dans le coup, quelle que soit sa bonne volonté, est quelque chose de profondément irritant pour celui qui souffre dans cette relation intime présente. Et je crois que on a une illustration là, formidable, de ce qui se passe tous les jours dans ces consultations d'annonce. Mais on a encore quelques minutes pour la salle.
Oui, il y a une dame là.
La question, c'était le fait de placer le patient et la personne au centre, ne participerait-il pas à évacuer le sujet patient et à le chosifier quelque part? Ne pourrions-nous pas mettre le problème qui le concerne au centre et placer le patient comme pensant, acteur et auteur de ce qui lui arrive, car il a des connaissances. Il n'y a pas que les médecins ni les soignants qui ont des connaissances. Il sait ce qu'il porte, il sait ce qu'il ressent, et il peut nous apporter beaucoup de choses pour éclairer sa situation. Et donc ça, c'était parce que je trouve que mettre en commun connaissances, compétences, et de trouver avec lui, le fait de pouvoir porter un projet, mais un projet qui est un projet de consentement résigné, mais je ne dirais pas résigné, mais éclairé. C'est-à-dire qu'il va participer autrement. C'est ce que je pense, enfin, je ne sais pas.
Oui. Merci.
Je vais pouvoir en rajouter un petit peu de mon côté, sous deux chapeaux, c'est-à-dire en tant que diagnostiqué, puisque j'ai vécu cet épisode annonce personnellement, et surtout en tant que formatrice IFSI. Je vais commencer par formatrice IFSI, ce sera beaucoup plus simple. Je suis formatrice IFSI avec Claire Malka comme directrice à Poitiers et je suis formatrice auprès des premières années infirmiers. Et il se trouve que je m'intéresse tout particulièrement à un enseignement, une formation autour d'une compétence qui est la numéro 3 en ce qui nous concerne et qui s'appelle « Accompagner la personne dans la réalisation de ses soins quotidien. Tout ce que vous avez dit ici, mais je me suis retrouvée parce que c'est vrai que nous sommes avec. Ac com pagnus, c'est-à-dire partager le pain avec l'autre. Et quand on est dans l'accompagnement du patient quel que soit le patient, quelle que soit la famille, l'entourage, les proches, on est dans cette dynamique-là. Et on passe par la formation, l'initiation à la relation d'aide rogérienne, parce que bon, on est plutôt axé là-dessus. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Et que ce soit un patient qui soit annoncé schizophrène en psychiatrie, parce que je pense quand même que là, ça peut aussi poser problème en termes d'annonce de diagnostic, et puis, ou alors de cancer, ou alors de diabète, qui peut être des fois quelquefois invalidant, ou d'un handicap quelconque, sensoriel, physique, mental. D'une part. D'autre part, en tant qu'annoncé, on va dire, je regrette, mais je crois que quand votre médecin traitant vous dit, ben madame, je vais, vous allez prendre rendez-vous en oncologie à Poitiers avec le docteur, on va dire monsieur Benadoun, eh bien, je vous assure, vous saignez beaucoup de quelque part, vous vous dites, alors si je vais en onco, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Socialement, je pense que je fais partie des gens qui comprennent pas mal leur situation, mais même quand socialement on est prêt à recevoir cette annonce, c'est le couperet. C'est ce que je vais dire comme définition, moi. Hein. Et on parle, certes, je pense que vous avez beaucoup de boulot en oncologie, mais je peux dire, je connais que mon expérience de Poitiers, j'ai pas vécu 5 ans de bonheur avec le service d'onco à Poitiers, mais c'est presque ça, parce que je me suis sentie vraiment accueillie, accompagnée dans ma pathologie, on m'a tout expliqué, et jusqu'au jour où mon onco m'a dit, là il aurait peut-être pas dû me dire ça, vous savez, j'ai eu très peur pour vous. Ça, c'est une vérité qui m'a complètement paniquée. Ça va, je suis en rémission, tout va très bien.
Si je peux me permettre juste une petite correction. Vous avez dit tout à l'heure, socialement, je suis capable de recevoir. Moi, je n'ai jamais dit qu'il y avait des gens qui étaient capables socialement ou pas. Ce que j'ai dit, c'est que c'était un certain nombre de médecins qui préjugeaient des capacités du patient à recevoir cette information en fonction de son milieu. Mais ça n'a strict... Pour moi, c'est vraiment deux ordres de compétences complètement différents et qui sont souvent amalgamés, hein, la capacité à supporter et la capacité à comprendre, et que ça n'est pas nécessairement les gens de milieu qui ont un bagage culturel qui sont plus aptes à recevoir. Hein. Donc là, il faut que les choses soient bien claires. Voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup aimé votre analyse disant que les réactions de la salle étaient assez symptomatiques du fait que celui qui reçoit un diagnostic et qui est l'objet d'un diagnostic, finalement, l'accepte pas très bien. J'ai trouvé que c'était c'est très juste, assez perspicace. Et je voudrais, à ce propos, faire une petite précision également. C'est que quand certains d'entre vous ont dit « je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit », à la limite, je ne cherche pas à ce que les gens soient d'accord. Ce n'est pas une opinion que j'émets. Et ça, c'est vraiment important de faire passer cette idée-là, c'est que quand on fait des sciences sociales, on n'émet pas des opinions. On donne des résultats d'études qui sont menées avec des protocoles scientifiques, avec une méthodologie, avec tout un appareillage, et ce ne sont pas des opinions. Et de ce point de vue, je pense qu'il est véritablement nécessaire, même si vous n'êtes pas d'accord, entre guillemets, que vous ne soyez pas immédiatement dans une position de défense, mais que vous acceptiez de peut-être venir aujourd'hui ici entendre des choses qui n'étaient pas ce que vous pensiez avant. Parce qu'à la limite, si vous venez entendre ce que vous savez déjà, ce n'est pas franchement utile, mais peut-être justement avoir une posture critique vis-à-vis de vous-même et de vous dire « bon, mais je vais y réfléchir ». C'est tout.
En continuant ce que dit M. Guipane, ce qu'il y a de marrant, c'est que vous vous transformez à votre tour en médecin technicien.
Je suis désolée, ça pourrait durer très longtemps, je ne veux surtout pas accaparer la parole, mais la différence quand même, c'est que, je vais vous dire, quand j'ai fait cette étude, c'était très difficile d'arriver à faire comprendre aux médecins que je n'étais pas de leur côté. Je ne suis pas non plus du côté des malades, je suis ailleurs. Et donc c'est
le voilà. Savoir qui s'applique à des gens qui ne sont pas prêts à l'entendre.
Voilà, mais en même temps, je suis d'accord. Et en même temps, les médecins doivent accepter que les sciences sociales puissent les observer et les étudier avec un tout autre regard.
Oui, moi, je suis généraliste dans le médecin de campagne.
Ça, c'est la moindre des choses, et on passe notre temps à ça. Que l'essence sociale, quelle qu'elle soit, hein, ou la psychanalyse pour ce qui me concerne, viennent donner des leçons de médecine aux médecins, alors que la médecine, c'est justement tout le contraire de l'étude pour l'étude. C'est tout le contraire. Hein, nous sommes coincés dans la nécessité d'agir. Donc on ne peut pas dire on étudie, on va voir, on va réfléchir. Ce n'est pas possible. Hein, il faut qu'il y ait un débouché quelque part. Les patients nous le demandent, notre éthique nous le demande et la loi nous le demande. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on est dans une position radicalement différente. Mais alors radicalement.
Oui, mais nous, on n'a aucune leçon à donner. Ça,
c'est clair. Pas une question de leçon.
C'est comme ça que c'est entendu. C'est ça que je voulais dire.
Ce que je veux dire, c'est qu'on se trouve, vous vous trouvez. C'est amusant parce que pour l'instant,
notre... on peut lui donner un micro ?
Il y a une question au fond.
Vous êtes en position de donner un diagnostic à des gens qui, par ailleurs, en l'espèce, ne sont qu'assez peu menacés. Mais enfin, vous donnez un diagnostic, et c'est vrai que ça a cet effet d'impertinence, si vous voulez, qui n'est pas à mettre à votre, qui n'est pas un reproche, qui est juste un constat que c'est bien difficile de parler d'un savoir aussi neutre soit-il. D'en être ne serait-ce que le messager, alors même que d'une certaine manière, c'est parler de l'autre.
Je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas menacé. Je voudrais tenter de dire en quoi vous êtes menacé, si vous permettez. Vous êtes menacé en cela que revoir le point de vue qu'on a sur sa propre profession, c'est très difficile. Et pour avoir vraiment une très très grande habitude de ce genre de dialogue, je peux vous dire que j'ai constaté des dizaines de fois, à la fois qu'il y a des individus qui sont prêts à le faire et qu'il y en a d'autres qui sont absolument réfractaires à cette pratique et qui, en conséquence, se sentent menacés dans l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et donc, que cette image qu'ils ont d'eux-mêmes soit menacée, c'est dur à vivre et pénible.
Est-ce que je peux en placer une ?
Il y a une question au fond de la salle. Si
voilà, au fond de la salle, donc. Ouais. Moi, je suis généraliste, je suis médecin de campagne. Et en fait, vous n'en avez pas parlé, des généralistes, pas tellement. Enfin, un généraliste a réagi. Oui, il y avait un vieux généraliste, il s'appelait Ambroise Paré, il disait une phrase, « Je le pensais et Dieu le guérissait ». On parle de francophonie ici. Et en fait, il y a le mot « guérir » et le mot « soigner ». Je pense que les médecins et les professionnels, en fait, sont des soignants, ne sont pas des guérisseurs. Le verbe guérir, c'est le patient qui le conjugue. Et si on pouvait s'entendre là-dessus, je pense que ce serait plus clair et plus humble, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Non, mais je crois, la personne qui vient d'intervenir a tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que ici, tout à l'heure, quelqu'un a dit, nous sommes ici pour revoir nos fondamentaux, c'est-à-dire exactement ce que vous souhaitez. On est tous là pour remettre en question un certain nombre d'idées reçues dans lesquelles on se débat, dans lesquelles on est malheureux et dans lesquelles on essaie de s'agiter comme on peut. Hein, d'accord. Ce que je voulais simplement insister sur un point, c'est que quand on est malheureux, quand on n'est pas bien, quand on a mal au ventre, on n'aime pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous le dise. Il faut une relation que je vais appeler transférentielle, que d'autres appelleront de confiance, que des troisièmes appelleront d'identification, qui marche. Et ici, c'est exactement pareil.
Bien sûr. Comme dit Martine, ça ne peut se nouer que dans une rencontre.
Exactement.
Ou on accepte de jouer la rencontre, ou on n'accepte pas.
Il y en a qui peuvent... C'est pour ça, tout à l'heure, on disait, le docteur, vous disiez, nous sommes tous prêts, etc., à entendre. Moi, je pense que vous n'êtes pas tous prêts. Tout simplement parce qu'on est tous comme ça. Mais moi non plus, aucun d'entre nous n'est facilement prêt. C'est-à-dire que nous sommes toujours tous, souvent dans l'incapacité d'accepter cette remise en question.
Mais peut-être qu'on peut accepter d'entendre un diagnostic douloureux et difficile si celui-ci est accompagné. C'est-à-dire que si je vous dis, vous avez un cancer avec des métastases au bout de 5 minutes de consultation, il n'y a plus de traitement, ça va être quand même difficile. Si vous dites à votre patient, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Où en êtes-vous? Etc. Et puis petit à petit, en dire bah, peut-être que là, il y a des choses difficiles, etc. Alors c'est vrai que vous êtes coincés par le temps, comme nous. Nous sommes coincés dans le temps, dans nos consultations. Mais voilà, vous avez fait exactement la même chose que le diagnostic que vous portez. Mais c'est plutôt sympathique de faire ce constat entre nous, quoi.
Bien. Docteur Sadoun, vous vouliez dire quelque chose ? Monsieur Ben Sadoun.
Juste peut-être en fin d'exposé, je crois qu'effectivement, on peut ressentir tous certaines frustrations, certaines difficultés. Je crois que vous l'avez bien exposé tout à l'heure, Martine, sur la difficulté au quotidien du cancérologue quand il a 30 personnes, qui fait le mieux possible et que quand il fait bien pour une personne, la suivante va le tancer de son retard. Je crois que tout ça peut aussi expliquer certaines réactions de certains des collègues dans la salle qui font effectivement le maximum et on essaie tous de le faire. Je crois que dans l'annonce, il y a aussi un point qui s'appelle le plan personnalisé de soins. C'est vraiment aujourd'hui, encore pour revenir aux lois françaises, la consultation d'annonce, le dispositif d'annonce est associé à cette démarche thérapeutique. On ne fait pas en cancérologie, en tout cas, d'annonce sans le plan personnalisé de soins derrière. D'ailleurs, la consultation d'annonce se place après le diagnostic et après la réunion de concertation pluridisciplinaire qui va choisir le plan de traitement. Donc cette annonce, elle est toujours associée au plan de personnalisé de soins. Et je crois qu'il y a le mot personnalisé, même s'il est technique dans ce cas-là, mais il doit être aussi plus global que technique. Et je pense que dans ce dialogue personnel avec le patient, cette annonce, vous posiez la question tout à l'heure, quelle est l'annonce ? Qu'est-ce que ça veut dire l'annonce ? Effectivement, certains ont dévoyé le terme et vous avez une annonce de thérapeutique. On va faire une consultation d'annonce à chaque nouveau traitement. Ça peut se discuter. Je crois que là, on est plus dans une évolution qui n'est pas la meilleure. Je crois que l'annonce doit être initiale et réserver le terme à la partie initiale de l'annonce diagnostique et du plan de traitement. Et je crois que dans l'annonce, je dirais, optimale, c'est de garder dans ce plan de traitement l'espoir pour le patient, qu'il sache où il va, vers quoi il s'engage, qu'il s'y engage avec confiance, avec détermination et avec une certaine connaissance des différentes étapes. Je crois qu'on n'a pas à tout dire, on doit dire les étapes que va traverser le patient, comment ça va se passer et comment on va l'accompagner dans tout ça. Ça, c'est plus ou moins l'annonce idéale telle qu'elle devait être faite en cancérologie, avec des variantes.
Une autre question, je crois.
Alors, oui, donc, je suis étudiant en médecine à Poitiers, donc externe en quatrième année. Et donc, je voulais revenir sur quelque chose que vous ne compreniez pas. C'était le fait qu'il y ait très peu d'enseignement de SHS au cours des études, au cours de la formation médicale. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont j'ai pu discuter justement hier avec le doyen, le professeur Roblot, qui m'expliquait qu'eux, ils avaient les mains liées en fait par rapport au programme. Comme vous le savez, il y a un examen classant national qui sanctionne, on va dire, la fin des études de médecine et l'accès aux différentes spécialités, etc. Et que ce programme est très, très chargé. C'est un programme très lourd avec un enseignement beaucoup de par cœur. Et que on ne peut pas, enfin, lui trouve qu'on ne peut pas surcharger encore plus les étudiants avec des programmes qui ne sont pas aujourd'hui avec un programme de SHS qui est, et c'est fort dommage, qui ne sera pas validant pour la spécialité, etc. Donc c'est un gros problème. Après, ce qui est fait lors de l'internat, je ne suis pas au courant, et c'est différent selon tous les internats.
Je vous pose une seule question. Comment est-ce que vous expliquez que ce soit envisageable et pratiqué en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et pas en France? Est-ce que leurs médecins sont vraiment moins bons que les nôtres?
C'est une volonté politique. Ben c'est oui. Une volonté
politique. On est d'accord. Ouais, d'accord. C'est une volonté politique.
J'ai une autre question, oui, sinon. Sûr. Et alors, vous parliez de pronostic, enfin, je vais parler, c'est peut-être pas le bon terme, de pronostic temporel, par exemple, un patient qui vient, pour combien de temps j'en ai, etc. Et alors, dans ce cas-là, j'essaye de mettre en empathie avec ce patient et je me dis, bon, ben voilà, il sait qu'il va mourir dans un avenir peut-être plus ou moins proche, plus ou moins lointain, il n'en sait rien. Et il a certainement besoin, alors certains vivent plus dans l'instant, d'autres gens sont plus à faire des projets. Et cette personne cherche certainement parfois à faire des projets et comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans son projet on lui dire qu'on ne sait pas, c'est clair qu'on ne sait pas, mais comment répondre à cette question auquel il n'y a pas de réponse, en fait ?
Moi, j'aurais juste envie de dire, quand une personne parle de cette manière, au-delà de la réponse que vous pouvez lui apporter, ce qu'elle cherche dans un premier temps, c'est à voir dans votre regard, dans votre manière d'être, que vous entendez et que vous reconnaissez ce qu'elle est en train de vous dire. Ne serait-ce que ça. Alors, ça peut paraître rien, mais je crois que c'est à ce moment-là qu'une rencontre entre deux personnes peut se faire. Parce qu'au-delà de l'information, entre guillemets, objective que vous pourriez lui apporter, et qu'au fond, peut-être d'une certaine manière, elle ne désire pas entendre, elle a d'abord besoin de voir si oui ou non, vous pouvez recevoir de telles paroles, si difficiles aussi à entendre pour vous. Je crois que dans un premier temps, c'est ce que j'appelle, moi, quand je travaille avec les médecins, les jeunes médecins, c'est essayer d'attraper les balles qui vous sont lancées. Mais les attraper, ce n'est pas tout de suite les renvoyer. Les attraper, c'est on l'attrape et on montre qu'on a attrapé cette balle. Donc cette parole a été accueillie. Et là, quand une parole est accueillie, ça veut dire que vous, en tant que médecin, vous êtes d'abord et avant tout une personne qui avait ouvert vos oreilles. Voilà. Donc je crois qu'à chaque fois, on pense que quand quelqu'un pose une question, c'est qu'il veut une réponse. Et c'est en ça que nous avons fait une erreur lorsqu'il y a eu les états généraux. C'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Les malades ont dit « on ne nous informe pas suffisamment ». Mais ce n'était pas ça qu'ils étaient en train de dire. En fait, on leur en donne trop des informations. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est être entendus. Et comme le disait si bien M. Spire tout à l'heure, c'est que ce qu'ils souhaitent aussi, c'est qu'ils puissent en dire un peu quelque chose de sa biographie, de son histoire, de son travail, de qu'est-ce qui va se passer pour lui s'il est obligé de s'arrêter de travailler demain, de comment ça va se passer pour conduire ses enfants à l'école, parce que je suis tout seul à élever mes enfants, etc. etc. Donc voilà, déjà, avant, il y a le savoir médical objectif, et puis après, il y a la personne qui est en face de vous. Donc déjà, vous l'entendez.
Si je peux donner juste une illustration, une anecdote pour montrer l'importance que ça peut avoir, à la fois, bien sûr, d'écouter le patient, mais de voir aussi que les préoccupations du patient, elles ne sont pas nécessairement en premier lieu sanitaires. Elles peuvent être aussi sociales, relationnelles ou autres. Je vous donne l'exemple d'une dame à qui son médecin dit qu'il faut reprendre une autre chimiothérapie avec un nouveau médicament. Et elle lui demande, un peu inquiète, si ce médicament lui fera perdre ses cheveux comme avec le précédent. Donc il lui répond, ensuite il continue à lui expliquer le traitement qu'elle aura. Elle revient à la charge en lui disant, mais est-ce que je pourrais me faire une couleur quand les cheveux repousseront? Alors bon, elle pose tout le temps des tas de questions en rapport avec ses cheveux. Et le médecin commence à être un peu énervé parce qu'il trouve que ce sont vraiment des questions futiles au regard de ses des problèmes de santé. Or, pour cette femme, ce n'est pas du tout anodin. Il se trouve que cette femme est mariée avec un monsieur qui a une relation adultère. Et pour elle, voir son corps se dégrader, c'est voir son couple risquer de se dégrader encore plus et encore plus vite. Donc, si vous voulez, là, il y a un enjeu relationnel et social qui est très important et qui prend presque le pas sur l'enjeu sanitaire. Et ce médecin, qui est tout à fait agacé par les questions de cette malade, justement, ne la prend pas en compte en tant que personne. C'est, à mon avis, un bon exemple.
Bien. Il y a encore une question ?
Oui.
Oui.
S'il vous plaît.
La dame, là. Oui, allez-y, madame. Ah bon, pardon.
Excusez-moi. Non, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que moi, j'ai vécu une expérience en tant que famille de cancéreux. Et je trouve que c'est une question qui revient, et c'est normal, quand on a une maladie grave, on veut savoir à peu près combien de temps il reste. Donc je suis d'accord qu'on ne peut pas s'aventurer dans des pronostics du temps qui reste à courir, mais pour l'entourage, ça permet quand même une meilleure gestion de la fin de vie. Parce que moi, dans le cas qui me concerne, le médecin avait annoncé une durée de fin de vie relativement importante. En fait, mon beau-père est décédé très rapidement et j'ai vécu une véritable frustration parce que je pense que si on avait été au courant, si on avait eu des réponses aux questions qu'on posait ouvertement, parce que moi j'ai quand même un petit peu de... Je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même des notions médicales. Eh bien, il y a des choses qu'on aurait fait avant son départ qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et ça, j'ai mis un certain... C'était en 2003. J'ai mis quand même plusieurs mois à le digérer. Donc, je suppose que pour les patients... C'est le même cas. Voilà, c'est
monsieur, vous serez le dernier, alors allez-y.
Mon intervention, d'ailleurs, va reprendre ce que dit madame. Je suis médecin, je travaille dans le cadre de Génération Mouvement Les Aînés Ruraux, qui a mis en place des ateliers d'aide aux aidants familiaux en difficulté. Comme vous savez, ils présentent très souvent des pathologies d'épuisement physique, psychologique, auprès de malades que, justement, les spécialistes voient. Je veux dire par là qu'il faut que vous vous en fassiez des associés de ces aidants. Il n'y a pas que le colloque direct avec le malade. Les aidants ont besoin de compréhension de votre part, d'aide, de suivi, et parce qu'ils sont mis en danger gravement. Ça, c'était la première observation que je voulais faire. La deuxième, c'était que j'étais un peu embêté par le philosophe qui était un petit peu procureur de ma part, mais à mon avis, c'est beaucoup plus de la provocation, et il a raison. Hein, ça remet en question pas mal de choses. La troisième chose que je voulais dire, c'est en suivant ce que disait l'étudiant, les gens qui ont une formation en psycho seraient-ils de bons médecins s'ils étaient médecins? Moi, je le crois. Mais pourquoi n'ont-ils pas accès à la médecine? Pourquoi est-ce que dans ce concours stupide de première, d'entrée, hein, sont-ils systématiquement éliminés? On peut me l'expliquer?
Je vous propose
de s'arrêter continuer sur cette question. Oui, voilà. Moi, je voudrais juste vous recommander donc les livres de nos participants. Vous avez le livre de la maladie grave paru chez face à la maladie grave paru chez Duno que Martine Rosniewski a écrit. Vous avez le livre Sylvie Finzang, La relation médecin-malade, information et mensonge. Et je voudrais vous les recommander avant que vous ne partiez en atelier. Merci.
Bon, avant de sortir de la salle, je voudrais vous faire une information importante. On voudrait photographier toute la salle. Et on vous propose, avant la pause café, vous n'aurez la pause café que si vous êtes photographié. Donc vous allez sur l'escalier, en sortant de la cafétéria, sur l'esplanade du Mendes France, parce qu'il y a des escaliers en marche. Et le photographe sera très content de vous prendre tous en photo. D'accord ? Et ensuite, on part en atelier. Et à la fin des ateliers, on se rejoint à la mairie pour le cocktail dînatoire, à 7h30. D'accord ?